Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Et ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir sur Europe 1 avec nos journalistes au cœur de l'actualité. Nous serons dans le sud-est dans un instant en alerte inondation, situation très tendue dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. À Paris, à Tours, à Lille, à Strasbourg, à Nice ou encore à Toulouse, des dizaines de milliers de citoyens pour dire stop aux violences sexuelles et aux féminicides. Nous rejoindrons dans 10 petites minutes Muriel Robin, très engagée sur ce sujet. Place de la Nation à Paris. 18h50 ce soir, une chanson dans la tête.
Laisse-moi te chanter.
Avec une jeune artiste talentueuse, féministe, engagée elle aussi, Angèle, 23 ans, une carrière de feu et les anecdotes à la clé de Fabien Lecoeuvre. 18h40, on va suivre de très près les commandos marines grâce à un livre passionnant de Manuel Calma. 19h15, nous mettrons à l'honneur sur l'antenne les lanceurs d'alerte. Un salon leur est dédié et je recevrai Marine Martin, mère Courage, qui a dénoncé le scandale de la dépakine. Voici une partie du programme de ce 18-20 sur Europe 1, votre grand journal. On commence d'abord avec toutes les infos présentées par Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 18h.
L'épisode n'est pas terminé, il va se poursuivre. Il continue d'y avoir de fortes pluies à l'ouest du département. Et petit à petit, ces fortes pluies gagnent l'est du département.
Vigilance rouge dans les Alpes-Maritimes, comme l'annonce le préfet pour la première fois de son histoire à cause des fortes pluies. Autoroute A8 coupée entre Villeneuve-Loubet et Fréjus, aéroport de Nice fermé. Et vigilance rouge aussi dans le Var avec les trains à l'arrêt. Un message des autorités, éviter tout déplacement dans la région.
Vous serez tout avec Valérie Darmon pour un point complet météo. Dans le Var, il est tombé par endroit en 48 heures, l'équivalent de 2 mois de précipitations.
Autre grand titre de l'actualité ce soir, la mobilisation à travers toute la France pour les marches contre les violences sexuelles et sexistes. 49 000 personnes dans les rues de Paris à 2 jours de la fin du Grenelle des violences conjugales.
Il faut des mesures pour faire comprendre à ces hommes que la violence sur leurs femmes est punie. Maintenant, il faut que ces lois passent à l'Assemblée.
Bienvenue à vous tous sur Europe 1 jusqu'à 20h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ce sont donc désormais 2 départements du sud de la France, Fabienne, qui sont en vigilance rouge, les Alpes-Maritimes et le Var.
Résultat de la pluie qui ne cesse de tomber sans discontinuer depuis hier avec, par endroit, vous le disiez, dans le Var, l'équivalent de 2 mois de précipitations tombées en 48 heures. Et Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant dans le sud-est et donc les autorités disent clairement ce soir à la population avec l'alerte rouge qu'il faut éviter tout déplacement.
Effectivement, hein, Fabienne, d'ailleurs, dans les Alpes-Maritimes, les centres commerciaux viennent de fermer sur demande de la préfecture. Les transports ferroviaires sont à l'arrêt. C'est également le cas entre Toulon et Saint-Raphaël dans le Var. L'autoroute A8 est coupée de Villeneuve-Loubet à Fréjus dans le sens Italie-Aix-en-Provence, conséquence du débordement de la Brague, un cours d'eau qui longe l'autoroute. En revanche, le côté opposé vient de rouvrir à l'instant, hein, de Fréjus vers l'Italie, notamment pour permettre aux automobilistes sur la route de rentrer chez eux. À l'aéroport de Nice, aucun avion n'atterrit ou ne décolle et il faudra attendre plusieurs heures avant un retour à la normale. Écoutez, Jean-Gabriel Delacroix, c'est le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes.
L'épisode n'est pas terminé, il va se poursuivre. Il continue d'y avoir de fortes pluies à l'ouest du département. Et en parallèle, petit à petit, ces fortes pluies gagnent l'est du département. Il commence à y avoir quelques perturbations du côté de Roquebrune en particulier, quelques éboulements. Donc, circuler continue d'être dangereux. Voilà pourquoi il faut limiter les déplacements et on est sur un phénomène qui ne va pas s'interrompre avant la nuit de samedi à dimanche.
Alors, l'épisode va même s'intensifier. Il va encore beaucoup pleuvoir. Le risque aussi, c'est la crue hein, des cours d'eau. Les autorités appellent donc à la plus grande prudence. Vous l'avez entendu, il faut éviter de prendre la route, mais surtout aussi éviter d'aller mettre à l'abri son véhicule, notamment s'il se trouve en sous-sol. Malheureusement, c'est le plus souvent la cause des décès lors d'inondations hein, de ce type. Au total, dans le Var, on a dénombré plus de 530 interventions. Près de 1000 pompiers sont mobilisés depuis hier soir. Un quartier entier de Hyères, l'Oratoire, a été évacué à titre préventif. Cela concerne environ 600 personnes hein, relogées chez des proches ou dans un gymnase municipal. Le septuagénaire porté disparu depuis ce matin à Saint-Antonin-du-Var est lui toujours activement recherché. Enfin, dans les Alpes-Maritimes, 550 pompiers ont procédé à 400 interventions, des mises en sécurité, des assistances pour les personnes inondées.
Voilà pour ces informations de Frédéric Michel pour cette alerte rouge qui en tout cas est une première pour les Alpes-Maritimes.
Nous partons du côté du Var maintenant, retrouver Jacques Terrence en direct sur place à Roquebrune-sur-Argent. Jacques, une partie des quartiers là-bas est inaccessible à cause des inondations.
Oui, c'est ça, Wendy. En fait, ce soir, Roquebrune-sur-Argent s'est coupé en trois. Il y a le centre, devenu une véritable île, accessible uniquement avec les bateaux des sauveteurs. Le bord de mer est aussi isolé, car les routes y sont coupées. L'Argence est en crue et n'arrive pas à s'écouler dans la Méditerranée en raison des coups de mer. Reste le quartier de la Bouverie, au nord, où les automobilistes tentent par tous les moyens possibles de passer dans les autres secteurs, mais c'est impossible. Un touriste a vu justement un conducteur de 4x4 risquer sa vie sur une route immergée.
Ça se dit, j'ai un 4x4, j'ai un 4x4, et puis je passe partout. Et puis on voit bien que non, on ne passe pas partout. Hein. Quand il y a de l'eau comme ça, voilà. Quoi. Il a voulu faire son malin en voulant passer, mais vu que tout est inondé, aussi bien à gauche qu'à droite, il aurait mieux fait de faire demi-tour. Quoi.
Et le conducteur a eu beaucoup de chance parce que le 4x4 s'est retourné, mais il a réussi à regagner la berge à la nage malgré le courant. Et puis un quart de touriste s'est retrouvé lui aussi bloqué. Ses 47 occupants ont dû trouver refuge pour la nuit dans une salle municipale.
Tous les ronds-points étaient fermés, toutes les routes étaient fermées. Et donc la police municipale nous a conseillé de nous arrêter au gymnase, ce que nous avons fait et nous sommes très bien traités.
Nous allons ouvrir la cantine scolaire, donc ils auront un repas chaud pour ce soir, comme ça. Et puis, ils dormiront ici et j'espère que demain matin, ils pourront reprendre. Mais ça, c'est un autre jour.
Voilà, et ce soir, à Roquebrune-sur-Argence, la situation, j'insiste, est vraiment toujours très préoccupante. Il pleut toujours très fort. Après une courte accalmie, les pompiers sont débordés ce soir. Autour d'une cinquantaine de mises en sécurité ont été effectuées et une quinzaine d'élitreuillages ont eu lieu également.
Jacques Terrence à Roquebrune-sur-Argence pour Europe 1.
Situation exceptionnelle avec cette alerte rouge dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Dites-nous comment la situation évolue dans les heures qui viennent. Frédéric Michel nous disait qu'il pleuvait toujours sur la région ce
soir. Absolument, les précipitations qui vont durer toute la nuit et qui vont même se renforcer par endroits. Hein. Il y est déjà tombé l'équivalent de 2 mois de pluie globalement en 24 heures et 3 mois par exemple à Tanneron dans l'est du Var. Le vent de sud souffle toujours très fort aussi sur le littoral méditerranéen, mais les départements ne sont plus en vigilance vent. En revanche, ils génèrent de très fortes vagues. Les affluents de l'Argence, les fleuves côtiers comme la Gisque, le Loup, la Siagne sont en crue et la montée des cours d'eau va se poursuivre et on attend même un pic ce soir et la nuit prochaine, on l'a entendu dans nos reportages.
Merci Valérie Darbon.
Notez que 5 autres départements sont en vigilance orange ce soir, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron et les Bouches-du-Rhône.
18h06, la suite du journal, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Ils étaient donc 49 000 dans les rues de Paris, citoyens, citoyennes, beaucoup de femmes évidemment, mais aussi des hommes, pour dire, Fabienne Lemoyle, une nouvelle fois, stop aux violences sexistes et sexuelles.
Marche organisée 2 jours avant la fin du Grenelle des violences conjugales. Vous avez suivi le cortège parisien qui est arrivé place de la Nation à Paris, Mathieu Bock. Et ceux qui défilaient voulaient vraiment dire au gouvernement qu'il est urgent d'agir.
Oui, au milieu des slogans comme « Ras le viol » ou bien « Merci Adèle » en référence à l'actrice Adèle Haenel, des manifestantes ont brandi des photos de victimes avec la date de la mort de ces femmes assassinées pour rappeler que derrière les mots, il y a des femmes et des histoires tragiques, explique Sandrine Buchette, présidente de l'Union nationale des familles de féminicides et qui a perdu sa sœur il y a 2 ans.
C'est bien plus parlant parce que voilà, on met un visage effectivement sur les victimes et c'est très important. Le gouvernement a un grand mépris pour nous les familles. Aujourd'hui, il y a eu un Grenelle sur les violences conjugales. Je n'ai entendu aucune mesure d'accompagnement des familles de féminicides. Donc c'est très important qu'on soit là aujourd'hui pour montrer au gouvernement que nous les familles aussi on est présentes et que les victimes, même si elles sont mortes, elles sont là aussi.
Et si ce cortège entend mettre la pression sur le gouvernement, c'est parce que ce fléau ne cesse de progresser. Céline porte un t-shirt avec la photo de son amie d'enfance, Julie, abattue par son compagnon au mois de mars dernier en Corse.
C'était la 30e et aujourd'hui on a 137. Il y a eu 107 femmes de plus en 9 mois. Il faut des mesures pour faire comprendre à ces hommes que la violence sur leurs femmes est punie. Avant ça ne l'était pas, les hommes pouvaient taper leurs femmes sans qu'ils soient punis ou interpellés. Maintenant, il faut que ces lois passent à l'Assemblée.
Alors, le cortège vient d'arriver place de la Nation où un grand concert va être donné dans les minutes qui viennent avec notamment Amel Bent. Mais on entend déjà des chansons dans les enceintes comme la chanteuse belge Angèle avec son tube Balance ton quoi. Et il y aura aussi, enfin, des prises de parole de plusieurs militants associatifs.
Mathieu Bock, place de la Nation à Paris. Une question pour terminer ce journal, Fabienne. Comment prendre la mesure, une question pour terminer ce journal, Wendy. Comment prendre la mesure quand, par exemple, vous dites « je ne vois pas le temps passer »
Ah, C'est sérieux, ça. C'est,
oui,
le temps.
Ça faisait partie sur le temps, des questions bien. Très sérieuses posées lors d'un congrès qui s'est tenu aujourd'hui à la Cité des Sciences. Chercheurs du monde entier, physiciens, biologistes, historiens, musiciens se sont demandé le temps existe-t-il vraiment ? Eh bien non, pas vraiment. Car comme vous nous l'a expliqué Laure d'Autriche, on va l'entendre en physique, le temps est une illusion.
Nous lisons l'heure sur nos montres, notre vie quotidienne est réglée par des rendez-vous fixés dans le temps, mais pourtant, en physique, le temps n'existe pas dans la nature. Souvent, on confond le temps avec la durée, explique Marc Lachiezeret, directeur de recherche émérite au CNRS.
Nous, on dit souvent, une montre, ça mesure le temps. Non, on met la montre à l'heure, et la montre mesure la durée entre le moment où on a mis la montre à l'heure et le moment où on la regarde. Une montre, c'est un chronomètre. Ce que l'on mesure, mais aussi ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent, ce sont toujours des durées et jamais du temps. Même si vous parlez du rythme de votre cœur, si vous dites votre cœur bat la seconde, ça veut dire qu'entre deux battements de cœur, il y a une durée d'une seconde.
Lorsque l'on emploie les expressions « prendre son temps », « ne pas avoir le temps », c'est d'une certaine façon incorrect. Par ailleurs, pourquoi de notre naissance à notre mort, nous vivons notre vie instant par instant et que l'on ne peut pas la vivre d'un seul coup, c'est une énigme.
On ne peut pas accélérer la manière dont on vit sa vie, ni la ralentir, ni revenir en arrière, etc. Et ça, d'où ça vient ? On n'a pas de réponse à cette question. Est-ce que ça vient de la physique ? Est-ce que ça vient... Parce que ce n'est pas une sorte d'illusion due à la manière dont est organisé notre esprit, notre conscience.
En définitive, dit ce chercheur, le temps est une notion composite qui rassemble les notions de durée, de simultanéité ou encore de chronologie.
Laure d'Autriche.
Merci, chère Fabienne Lemoyle. À demain, à partir de midi, pour nous informer sur Europe 1.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et pour les auditeurs qui nous rejoignent, on fait le point tout de suite, Valérie Darmon, sur les vigilances en cours dans le sud-est de la France.
Alors, les vigilances rouges, hein, déjà, pluie, inondation et crue pour le Var et les Alpes-Maritimes, et crue uniquement pour les Bouches-du-Rhône, le Gard, la Haute-Loire, l'Ardèche et le Vaucluse. Ces vigilances qui ne vont pas bouger avant au moins le milieu de la nuit, puisque ces pluies vont se renforcer sur le Var et les Alpes-Maritimes notamment, et que la décrue est loin, très loin d'être entamé puisque nous attendons même un pic de crue au cours de la nuit. Pour le reste, on a aussi des fortes chutes de neige qui sont attendues en altitude encore et encore sur le massif des Alpes-Maritimes, notamment sur le Mercantour, et qui a généré un très fort risque d'avalanche et la tempête de neige d'aujourd'hui qui a rendu les accès impraticables pour monter en station. Alors pour demain dimanche, la matinée s'annonce encore pluvieuse dans le sud-est et puis on a une amélioration qui se dessine progressivement sur le Languedoc et les Bouches-du-Rhône. Il va neiger aussi en fin de nuit et en matinée d'ailleurs aux alentours de 800 000 mètres sur la Lozère. Et le caractère orageux va se maintenir encore donc le matin localement sur le Var et les Alpes-Maritimes. Et puis à partir de la mi-journée, ces pluies vont s'espacer et perdre en intensité. Sinon partout ailleurs, c'est une légère amélioration si je puis dire, avec quelques trouées ensoleillées ici ou là, mais encore pas mal de nuages sur la façade atlantique.
Nouveau point météo et nouveau point d'info à 18h30 sur Europe 1. Merci Valérie.
À suivre Wendy dans le Grand Journal du soir.
49 000 personnes dans une marche à Paris, celle contre les violences sexuelles, sexistes et contre l'horreur des féminicides. Muriel Robin était mobilisée. Nous le rejoignons Place de la Nation dans une petite minute. Ne bougez pas. Europe 1.
18h13, on vous retrouve Wendy Bouchard pour la suite du Grand Journal du soir sur Europe 1. Toute la journée, les marches se sont multipliées dans les grandes villes de France à l'appel du collectif Nous Toutes.
Oui, à Paris notamment, la mobilisation a été très suivie pour exiger une réaction collective et pour en finir avec les violences sexuelles et les féminicides. Bonsoir Muriel Robin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous Muriel, vous qui gagnez pas à pas la Place de la Nation au milieu de 49 000 personnes, grande mobilisation. Oui. Vous voyez donc depuis plusieurs mois, depuis votre investissement dans cette cause, la prise de conscience grandir, du côté de l'opinion publique en tout cas.
Absolument, et je suis venue non pas le vérifier, mais parce que non, j'avais confiance, donc nous avions toute confiance, et je pense surtout à toutes les associations qui font un travail de fourmi depuis tellement longtemps, et là, qui étaient bouleversées, on l'était avec elles d'ailleurs, donc ça c'est formidable, parce qu'on va être plus fort, plus fortes ensemble, nous voilà avec un nouveau levier de cette prise de conscience, mais après, quels seront les résultats, parce que même si quelques mesures ont déjà été prises, quelles vont être les annonces à la suite de ce Grenelle que nous avions demandé ? Parce que si on n'est pas là à se battre tous les jours, si elles ne sont pas là à se battre tous les jours, ces associations, il n'y a rien qui bouge. Alors, on a un petit peu d'espoir parce que y a quand même une bonne volonté, on va dire. Mais moi, personnellement, j'ai hâte d'entendre ce que nous dira notre président lundi et quelles mesures vont être prises.
Oui, que le gouvernement, en conclusion de ce Grenelle, Muriel Robin, quelque part, rencontre la marche de l'histoire. Parce que le collectif auquel vous appartenez, nous toutes, salue ce soir la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences.
Absolument,
et vous en êtes témoin.
Absolument, mais c'est vrai qu'au niveau historique, ce serait très fort et ça irait très bien avec cette marche qu'il y ait vraiment une impulsion politique forte et des moyens conséquents, que ce soit à la hauteur de cette prise de conscience. Sinon, il risque d'y avoir des c'est-à-dire qu'on est plus nombreux, on sera plus nombreux et nombreuses à être mécontents. Il ne faudrait pas que l'annonce qui sera faite lundi soit huée. Je redoute tout, j'ai peur. On a peur parce que c'est. Il faut être à la hauteur de ce fléau aussi. Maintenant, on est à un assassinat tous les deux jours. Donc, je pense à ces victimes. Là, au moment où on parle, il y a une femme quelque part qui se dit peut-être dans une heure je serai morte. Que vont devenir mes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être une qui est assassinée au moment où on parle, là, maintenant, samedi. Et ça se reproduira lundi. Donc, c'est des dégâts terrible partout pour toutes les familles. Donc il y a des mesures à prendre. Déjà, appliquer la loi, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en place et qui sont du domaine de la loi. D'ailleurs, le Conseil de l'Europe a pointé des lacunes en France sur plein de points. Donc déjà en place, c'est lent. On ne peut plus être lent. C'est trop. Le bateau coule, quoi. C'est comme si on. Alors c'est bien, là, j'ai l'impression qu'on a sorti quelques éponges pour écoper, mais il faut le grand Barnum. Il faut les pompiers, il faut les hélicoptères, il faut le grand Barnum. Parce que ce sont toujours nos mères, nos filles, nos amis, nos sœurs, nos collègues de travail. Tous les deux jours, c'est abominable, c'est effroyable ce décompte.
C'est effroyable. C'est terrifiant et j'ajoute à ce chiffre que vous dites de nouveau sur l'antenne d'Europe 1, Muriel, les 93 000 victimes de viol ou de tentatives de viol par an, les 200 000 femmes qui subissent ces violences sexistes et sexuelles chaque année.
Bien sûr.
On a assez perdu de temps, c'est ce que disent toutes les femmes, tous les citoyens autour de vous. Dès lundi, cela dit, pour parler concrètement, on devrait connaître dans les commissariat, un nouveau protocole d'accueil pour les victimes de violences, une nouvelle grille d'évaluation.
Effectivement. Alors effectivement, il y aura les 23 questions à poser à une victime qui permettront de
repérer les signaux.
De repérer vraiment la personne qui est en grave danger. Mais il y a tout à faire, hein, parce que quand on voit les chiffres, quand même, il y a des chiffres qui sont sortis qui font froid dans le dos. Comment 68% des 64%, dans 65% des cas, la police avait été saisie sur des dossiers où les femmes sont mortes. 80% des plaintes transmises au parquet sont classées sans suite, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de s'en foutre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut reprendre tout le monde, la police, les magistrats, les avocats, les gendarmes. Encore une fois, il y a une petite chose qui a été faite, petite, mais je suis rassurée et inquiète, mais en même temps rassurée quand Nicole Belloubet dit ça va pas, il y a des manquements. Ça, on se dit, ah, quand même, elle est avec nous, elle ne peut pas nous dire tout va bien. Parce que c'est ce qu'on nous a dit aussi quand on s'est déplacé il y a un an, quand nous avons rencontré Marlène Schiappa, Édouard Philippe, c'était quand même, ça va pas si mal. Non, on doit ne plus pouvoir dormir tranquille avec ce qui se passe. On est en France, on ne peut pas laisser comme ça un assassinat. Il faut de l'éducation, il faut de l'argent, il faut un milliard. Il faut un milliard pour les paysans, il faut aussi un milliard pour les enfants maltraités, il faut un milliard pour les infirmières, il faut là aussi il faut un milliard.
C'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre. Donc on sait bien qu'en Espagne, ça fait baisser de 50% les violences conjugales. Bon, on est au début de ça, mais il va falloir sauter des étapes et rattraper le temps perdu où vraiment il n'y avait rien. Rien, c'était indécent vis-à-vis de ces femmes.
Manifestement, elle vous entend, elle vous écoute, du moins Marlène Schiappa, en disant aujourd'hui qu'il ne cessait le gouvernement de remettre de l'argent pour cette cause. Vous interpellez depuis plusieurs mois, Muriel Robin. Emmanuel Macron, il a finalement le droit et même le devoir aujourd'hui de décider que la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité politique, Muriel Robin.
Oui, bien sûr. C'est ce que je souhaiterais, quelque chose à la hauteur de ce. De ce qui se passe.
Vous comprenez son silence relatif sur ce sujet?
J'ubure plus, je, je ne serais pas contente. Voilà, c'est tout, c'est un euphémisme. Ouais. Je ne serais pas contente. Je pense que beaucoup ne seront pas contentes. Et tous ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, elles sont plus toutes seules, les associations. Moi, je suis qu'un petit bout de la chaîne. Mais elles bossent tout le temps, sans moyens. On dit porter plainte. Dernièrement, c'était le nouveau truc, porter plainte. Une campagne de 3 millions d'euros. Mmh. Il y avait peut-être autre chose à faire avec 3 millions que de dire aux gens porter plainte, parce qu'il y a eu plus de plaintes, mais plus de cadavres. Ouais. Ça va plus vite, puisque maintenant, c'est tous les deux jours. Donc, il s'est passé ce qu'on pensait. C'est-à-dire, oui, on le sait, on connaît plus de cas, mais on ne les a pas sauvés pour autant. Qu'est-ce qu'on dit les yeux dans les yeux à la femme? Qu'est-ce que notre président dit les yeux dans les yeux à cette femme X et qui va revenir tous les deux jours?
Bien sûr.
Tous les deux jours. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est ça que je veux entendre. Est-ce que, voilà, on peut mettre, faut des décisions à la hauteur du sujet. Son silence, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps.
Muriel, Muriel Robin, dernière question sur ce président que vous interpellez. Dans la lutte contre la radicalisation, il appelle à l'émergence d'une société de vigilance, que nous soyons tous acteurs engagés d'un sujet pour que notre société se porte mieux, ouais, y compris pour les violences faites aux femmes. Vous considérez que, par exemple, dans le métro, il faut protéger les femmes inquiétées, en entreprise aussi, en région, les accompagner, que nous soyons tous engagés pour cette cause, ça serait peut-être un des plus beaux messages aussi de la journée, pour vous.
C'est vrai. Mais on a eu un goût de ça aujourd'hui. Oui. Beaucoup d'hommes, donc les enfants, qui disaient qu'il n'y a pas d'âge pour être féministe. Donc on est au début de quelque chose. Mais oui, il va falloir un moment, on est là, les femmes. Donc il va falloir, on sait qu'il y a tout à faire, mais il y a tout à faire vraiment pour la protection des femmes, féminicides compris, et pas que. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est l'urgence, parce que là, on a des assassinats. Donc on a des enfants qui vivent ça, qui ont ça sous leurs yeux, comment ils s'en remettent. Alors évidemment, on sait que ça arrive plus quand il y a de l'alcool, et que c'est souvent, mais pas toujours, il faut aussi le dire, c'est souvent quand même dans les milieux défavorisés. Alors après, on va dire, on va pas s'en sortir, puisque les milieux, ça veut dire qu'il faut que les gens qui crèvent de faim, qui sont malheureux, au lieu de boire le soir, et du coup, la violence se met en place, comment on les sort de là? C'est très compliqué, mais on peut mettre des sanctions, l'éloignement de la victime, non, l'éloignement du coupable, le bracelet, le 39-19 tout le temps, des centres d'hébergement. La France, c'est une loi. On doit protéger une famille tous les 10 000 habitants. Mmh. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'a pas les chiffres de ça. La loi n'est pas appliquée. Alors, il faut au moins appliquer la loi quand même.
Merci.
Quand même.
Merci Muriel Robin. Vous qui êtes aux côtés de tous ces citoyens à Paris, mais aussi à Montpellier, à Tours, à Strasbourg, à Lille. Et je renvoie, ouais, cher Muriel, les auditeurs qui sont touchés par votre investissement, à votre interprétation exceptionnelle du personnage de Jacqueline Sauvage, qui a beaucoup fait bouger.
La porte-parole de toutes ces associations qui se démènent depuis des années seules.
Et merci pour elle.
Voilà, elle mérite vraiment d'être soutenue dans leur travail magnifique.
Merci
à vous.
Merci beaucoup. Merci Muriel Robin.
Il est 18h23. Dans un instant, sur Europe 1, l'actu des sports, Wendy.
Oui, on parlera foot, rugby avec Simon Rubin et Lionel Rossoy tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard. C'est la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1.
Avec toute l'actualité des sports présentée par Simon Rubin. Bonsoir Simon.
Bonsoir Wendy.
Et au sommaire ce samedi.
Du foot, Lyon joue gros à domicile face à Nice en Ligue 1. Du rugby, les clubs français au destin contrasté en Coupe d'Europe. Et puis du ski, début de la saison de slalom, les femmes aujourd'hui et les hommes demain.
Le football à la une, donc, pour commencer avec ce match en cours du côté de Lyon en Ligue 1.
Les Lyonnais 14e avant cette rencontre face à Nice, des Niçois 13e. Il y a donc de l'enjeu pour Lyon, qui a changé d'entraîneur, qui veut relancer sa saison. C'est un rendez-vous crucial. Maxime Schoch, c'est la mi-temps. Et jusqu'à présent, Lyon répond présent justement.
Effectivement, bonsoir tout le monde. Les Lyonnais ont répondu présents et gèrent bien pour le moment les absences sur blessure de leurs deux pièces maîtresses que sont Memphis Depay et Oussem Aouar. Il y a 2-0 pour les Gones ici à la mi-temps. Jeff Rennes-Adélaïde a ouvert le score à la 10e minute, une belle frappe croisée. Penalty obtenu et transformé par Moussa Dembélé à 27e minute. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les Lyonnais vont disputer toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11 depuis l'expulsion à la 34e minute sur carton rouge du défenseur Marsal, remplacé par Youssouf Koné, et c'est Jeff Rennes-Adélaïde qui a dû laisser sa place. Ça fait donc 2-0 pour Lyon ici au Groupama Stadium face à l'OGC Nice.
Maxime Chachan direct, et puis à 20h le multiplex Europe 1 avec les affiches suivantes: Amiens-Strasbourg, Brest-Nantes, Metz-Reims, Angers-Nîmes et Dijon-Rennes. Des matchs à suivre donc à partir de 20h, avec vous notamment Lionel Rossoy pour orchestrer tout ça. Et puis, en marge des matchs, on va aussi parler football, notamment le grand rendez-vous de mardi prochain, Real-PSG.
Oui, avec au cœur des débats aussi, Lionel Rousseau, bonsoir.
Bonsoir, Wendy.
Le management des joueurs, ça pose une vraie question au PSG
oui,
aujourd'hui.
Car au Paris Saint-Germain, on en parlera dans nos débats à partir de 20h avec nos experts. Et dans le cadre et dans la perspective du match contre le Real Madrid, mardi, soirée exceptionnelle sur Europe 1, je le précise, on suivra ce match également. Abondance de biens, nuit au Paris Saint-Germain, car il y a pléthore d'attaquants, de très très grands attaquants.
On les met où ?
Tout le monde, effectivement, on ne peut pas jouer à 15, ce n'est pas du rugby. Et quand Neymar est de retour, quand Mbappé est de retour, quand Icardi marque, il se rend indispensable. Donc que fait-on de Cavani ? Di Maria, on ne peut pas s'en passer non plus. Donc il y a pléthore d'attaquants, il y a un vrai problème. Donc on va savoir si véritablement Thomas Tuchel, l'entraîneur, est un vrai bon manager, s'il va trouver les arguments. Il a déjà donné une petite indication cette semaine, car vous le savez peut-être, Neymar s'est permis une petite escapade à Madrid pour aller assister à la Coupe Davis à l'invitation de Gérard Piqué.
Oui.
Ça n'a pas plu à l'entraîneur, il l'a fait savoir. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de privilèges au PSG, et il peut y avoir des surprises, dont le choix pour mardi prochain.
On parle de tout ça ce soir à partir de 20h dans Europe 1 Sport. Merci Lionel.
Et on va passer au rugby. Trois clubs français engagés aujourd'hui en Coupe d'Europe. Alors à commencer par Toulouse qui recevait le club du Connard en début d'après-midi. Et victoire des Toulousains 32-17. Bonus offensif à la clé. Pourtant, sous une pluie battante, le stade toulousain a eu bien du mal au démarrage. L'entraîneur Hugo Mola.
Le résultat comptable et final est plutôt positif. Après sur la manière et sur les intentions, il y a beaucoup de choses à redire. Mais en tout cas, c'était un match piège au regard des conditions, au regard de la belle équipe du Connacht. Et on savait, sans être en tout cas en termes de plan, que l'heure de jeu serait le moment un peu charnière pour essayer de faire basculer la rencontre. On espère toujours le faire avant. Mais en tout cas, ça s'est joué clairement à l'heure de jeu sur la rentrée de notre banc et le leur où on a pu faire la différence, notamment sur un rugby qui n'est pas forcément toujours le nôtre. Mais être capable aujourd'hui de s'adapter avec les ballons portés, une bonne conquête, une bonne mêlée.
Propos recueillis par Patrick Anselmetti. Lyon, de son côté, quasiment éliminé de la compétition. Deuxième défaite en deux matchs, cette fois face au club du Leinster. Et puis d'ici quelques minutes, c'est le Racing qui se déplace en Irlande du côté du Munster.
Un petit mot sur l'ouverture de la saison de slalom en ski ce week-end en Finlande.
L'épreuve dames ce matin remportée par l'américaine Michaela Schifrin. Et puis côté français, chez les garçons, ça commence demain avec notamment les Pinturault et autres Clément Noël. Ça, c'est la jeune garde ou en tout cas les hommes en forme. Mais aussi Julien Liseroux, 40 ans, qui sera toujours là pour son énième saison.
Merci Simon, à tout à l'heure 19h pour la suite de l'info.
On refait l'actu dans le grand journal du soir, Wendy. Actu en pleine polémique.
Autour d'un des sponsors déclarés du comité international olympique, Airbnb doit-il être associé au JO de Paris 2024 notamment. Les hôteliers sont furieux et notre invité Yann Brossa, en charge du logement à Paris, réagit.
18h31, nous sommes avec Wendy Bouchard sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir.
Et si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Sophie Echen. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le Var et les Alpes-Maritimes sont désormais placés en alerte rouge. Pluie, inondation, la situation devient critique dans le sud-est. Les cours d'eau sont en crue, les routes sont barrées. N'utilisez surtout pas votre véhicule et soyez très vigilants. On attend l'équivalent de 2 mois de pluie en 48 heures. L'aéroport de Nice suspend tous ses vols jusqu'à nouvel ordre. Le trafic SNCF est également arrêté. 5 départements sont maintenus en vigilance orange inondation. La Haute-Loire, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. 49 000 personnes ont marché à Paris pour dire non aux violences sexistes et sexuelles, selon le cabinet de comptage Occurrence pour plusieurs médias, dont Europe 1. D'autres manifestations avaient lieu partout en France, notamment à Lille, Bordeaux et Toulouse. Le collectif Nous Toutes, à l'origine de ces rassemblements, salue la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences faites aux femmes. Un incendie meurtrier en Moselle. Deux frères et sœurs, une fillette de 4 ans et un adolescent de 15 ans sont morts dans leur maison à Folchviller. La grand-mère des deux victimes, une femme âgée de 70 ans, a été gravement blessée, brûlée aux jambes et au dos. L'origine du sinistre n'est pas encore connue.
Merci Sophie, à tout à l'heure 19h pour le journal. Sophie le rappelait, ces différentes vigilances, que donne la situation à 18h32 Valérie ?
Eh bien, elle continue de s'aggraver dans les Alpes-Maritimes et le Var avec des pluies incessantes jusqu'en fin de nuit qui vont devenir plus éparses ensuite. Entre midi et 17h aujourd'hui, il est tombé entre 20 et 50 mm de pluie. Et depuis le début de cet épisode méditerranéen, il y a 24 heures, les cumuls de pluie correspondent à environ 2 à 3 mois de précipitation. Il neige aussi abondamment en montagne sur le Mercantour et l'Ubaye avec une limite pluie-neige aux alentours de 1400 mètres. Et donc, ce dimanche matin, les précipitations perdront enfin de leur intensité et le vent faiblira sensiblement.
Merci Valérie Darmon.
On refait l'actu. Wendy Bouchard avec à présent le dossier polémique de la semaine dans la perspective des JO 2024.
L'arrivée d'un sponsor qui met très en colère les hôteliers de France et ceux de Paris en particulier. Le partenariat noué par le Comité international olympique et le géant américain de location saisonnière Airbnb jusqu'en 2028 pour 5 éditions. Bonsoir Yann Brossat.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement et par ailleurs porte-parole du Parti communiste. Et est-ce que vous êtes indigné avec les responsables de l'hôtellerie traditionnelle sur ce partenariat pour d'abord une question de distorsion de concurrence, pour parler économie?
Il y a évidemment un sujet dans cette affaire, parce que quand on est hôtelier, on paye des cotisations sociales, on est confronté à un certain nombre de normes qu'on doit respecter, et là-dessus arrive Airbnb qui ne respecte pas ses normes, qui ne paye pas ses impôts en France et qui ne paye pas de cotisations sociales. Donc inévitablement, il y a une forme de distorsion de concurrence, et je comprends parfaitement que les hôteliers se mobilisent et disent qu'ils ne sont pas d'accord avec un tel partenariat.
Il y a une situation particulière à Paris, Paris qui est la première ville Airbnb au monde. Et vous avez écrit sur Twitter des conséquences désastreuses pour ces locations saisonnières dans nos villes. Ça se traduit très concrètement par un marché en tension sur l'immobilier ?
Oui, au-delà de la question de la distorsion de concurrence dont souffrent les hôteliers, Airbnb s'est considérablement développé à Paris et a eu des conséquences négatives sur le marché du logement. Mmh. Il ne s'agit évidemment pas de dire que les difficultés de logement à Paris sont la conséquence unique du développement d'Airbnb. Simplement, ce que nous constatons, c'est qu'on a désormais des multipropriétaires qui achètent des appartements, parfois des immeubles entiers, qu'ils transforment en hôtels clandestins. C'est-à-dire qu'on a remplacé des logements par des hôtels, d'une certaine manière, et qu'on a remplacé des habitants par des touristes. Et donc oui, bien sûr, ça pose problème dans une ville où la situation du logement est déjà compliquée.
Sauf que c'est un acteur du secteur et un acteur puissant, évidemment, Yann Brossat. Un acteur qui, aujourd'hui, multiplie le nombre de nuitées, mais qui favorise aussi les hôteliers. Alors ça, je l'ai appris en préparant cette interview. C'est d'ailleurs la défense d'Airbnb, mais il faut la souligner. Un hôtel parisien sur 5 utilise la plateforme Airbnb pour ses réservations. Il ne joue donc pas cavalier seul.
Bien sûr, simplement la question qu'il faut se poser, c'est comment on développe à la fois le tourisme, et c'est absolument nécessaire, mais comment on fait en sorte que ce développement du tourisme ne se retourne pas contre les habitants eux-mêmes. Et on voit que dans un certain nombre de villes, je pense en particulier à Barcelone, on a eu un tel surtourisme qu'au final, ce sont les habitants qui ont fini par en souffrir. Du tourisme, oui, mais du tourisme maîtrisé, régulé. Et c'est tout ce que nous essayons de faire à la ville de Paris depuis plusieurs années maintenant, réguler Airbnb, permettre à ceux qui veulent louer occasionnellement de mettre un peu de beurre dans les épinards, mais ne pas permettre que des multipropriétaires s'accaparent des logements pour les transformer en hôtels clandestins. Donc il faut trouver le bon curseur.
Et là où vous dénoncez un petit peu la politique du gouvernement, c'est qu'ils auraient pu agir. Les députés macronistes, il y a quelques jours, ont choisi de ne pas toucher au seuil de 120 nuitées maximum par an qu'on peut déléguer à Airbnb, à cette plateforme.
Effectivement, aujourd'hui, on a le droit de louer son logement jusqu'à 120 jours par an. 120 jours, c'est 4 mois par an. C'est quand même considérable. Et dans la plupart des grandes villes du monde, même à Barcelone maintenant, à Madrid, à Londres,
c'est
à New York,
énorme.
On a des durées qui sont beaucoup moins longues. D'ailleurs, je connais assez peu de gens qui partent 4 mois par an en vacances et qui ont la possibilité de louer leur logement. Donc, nous avons cherché, nous, la mairie de Paris, à obtenir du législateur un abaissement de cette durée. Et je regrette que le gouvernement ne nous ait pas permis de le faire. Je pense franchement que sur des questions comme celle-là, ce serait plutôt aux élus locaux de choisir. Après tout, nous, on est confrontés tous les jours à des habitants qui souffrent des nuisances liées à Airbnb et on devrait avoir le droit, on devrait avoir la possibilité de réduire un peu ce nombre de nuitées, pourquoi pas à 60 jours.
Vous n'avez pas la main aujourd'hui, très clairement, sur les règles et sur l'encadrement de ces plateformes ?
Effectivement, nous n'avons pas la main et j'aimerais que le gouvernement nous écoute, j'aimerais que le gouvernement nous entende et nous permette de nous donner tout simplement la main sur un sujet comme celui-là.
Les hôteliers défendent de leur côté un savoir-faire, la fameuse hospitalité à la française, mais le CIO a-t-il raison aussi de miser sur des acteurs porteurs et importants pour l'économie, pour satisfaire finalement tous les acteurs d'un système ?
Mais ce qui pose problème dans la décision du CIO...
L'important, c'est de participer.
Ouais, mais ce qui pose problème dans la décision du CIO, c'est que le CIO valorise énormément par ce partenariat une entreprise qui non seulement a des conséquences négatives sur Paris, mais surtout ne respecte pas la loi. C'est-à-dire que on choisit de valoriser une entreprise qui enfreint la loi française. Airbnb ne respecte pas la loi. C'est une plateforme qui est censée, de par la loi, retirer les annonces illégales. Airbnb continue à gagner de l'argent, à toucher des commissions sur des annonces illégales qui dépassent la durée des 120 jours dont on parlait tout à l'heure, qui par ailleurs ne paye pas ses impôts en France. Airbnb paye autant d'impôts
qui paye les taxes de séjour. Hein, 24 ouais. millions taxes
non,
de séjour.
Non, il collecte la taxe de séjour. Ouais. Il ne la paye pas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais surtout, Airbnb paye en gros autant d'impôts qu'un hôtel 3 étoiles à Périgueux. Quand on sait l'ampleur de l'activité d'Airbnb, on se dit qu'il y a un problème. Et donc, que le CIO choisisse de valoriser une entreprise comme celle-là me pose problème. Surtout qu'il y a quand même suffisamment d'entreprises qui respectent les lois et qui payent leurs impôts pour qu'on valorise plutôt celle-là.
On va écouter la défense de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris 2024. Il répondait à Jean-Gabriel Bourgeois sur Europe 1. Pour lui, ce partenariat ne met pas les relations avec les hôteliers en péril. Hôteliers qui lui ont écrit cette semaine.
Notre volonté, c'est de valoriser les hôtels français et ce sont des entreprises françaises et on veut vraiment quelque part qu'elles puissent bénéficier des opportunités de Paris 2024. Et donc ces 42 000 chambres, elles ne sont pas du tout aujourd'hui mises en danger par le partenariat du CIO avec Airbnb.
Comment on calme la colère des hôteliers de votre côté quand on travaille à la mairie de Paris, Yann Brossat, comme vous?
Tout simplement en continuant à mener le combat pour mieux réguler Airbnb. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le choix du CIO, et c'est un choix dans lequel la ville de Paris n'a pas de rôle, puisque nous avions alerté justement le CIO sur les conséquences d'un tel partenariat. La maire de Paris avait écrit au patron du CIO. Nous, en tout cas, notre détermination à réguler l'activité d'Airbnb, elle est sans faille et nous allons continuer à batailler en menant évidemment des contrôles et en faisant pression sur le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités.
Elle l'annonçait en septembre, Anne Hidalgo, qui appelait à aller plus loin dans la loi avec l'interdiction de ces logements dans un certain nombre d'arrondissements de la capitale. Vous travaillez sur la question encore, Yann Brossat ?
Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de quartiers où on aurait besoin, dans le centre de Paris, dans le centre historique de Paris, où on aurait besoin sans doute d'aller plus loin et d'aller vers une interdiction d'Airbnb. Quand vous voyez la situation sur l'île Saint-Louis, où on n'a quasiment plus d'habitants, où on n'a plus que des magasins de souvenirs, je ne crois pas que ce soit ce qu'on veut faire de ces quartiers-là. On a besoin de quartiers habités et pas de quartiers qui sont uniquement visités.
Avec un nouveau décret aussi, le 1er décembre, qui entrera en circulation, qui permettra aux communes de contraindre Airbnb à transmettre une liste précise de logements loués. Donc, on a le sentiment quand même que l'étau se resserre.
L'étau se resserre et heureusement, un peu plus de transparence, c'est bien. Mais je pense surtout qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de donner aux collectivités locales, aux villes, au plus près des habitants, les moyens de réguler ce phénomène. Moi, je suis favorable à un référendum d'ailleurs à Paris, une consultation des habitants sur cette question, pour que ce soit les habitants eux-mêmes qui tranchent cette question, qui disent s'il faut abaisser le nombre de jours, s'il faut interdire dans un certain nombre de quartiers. Après tout, c'est peut-être aux habitants qu'il revient de trancher ces questions.
D'être acteur avec les communes et la mairie de Paris que vous représentez en charge du logement. Yann Brossat, merci pour
merci vos
mots ce soir sur Europe 1.
18h40, dans un instant, sur Europe 1, l'interview découverte Wendy.
Dans l'univers des commandos marines, des forces spéciales, des missions d'exception, avec notre invité Emmanuel Calma qui publie un livre entre réalité et fiction aux éditions du Rocher.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard. Vous êtes bien sur Europe 1 et on va découvrir maintenant avec vous, Wendy, les parcours et les personnalités exceptionnelles des commandos marines.
Avec un récit haletant que vous publiez sur le sujet, Manuel Calma. Bonsoir Manuel.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Et très heureuse de vous recevoir pour parler de ces commandos marines au cœur des tempêtes. C'est à lire aux éditions du Rocher. Vous qui avez travaillé près de 2 ans pour nous faire partager au plus près les vies de ces hommes. Pas de femmes d'abord dans ces unités?
Il n'y a pas de femmes, elles ont la possibilité de passer les tests de sélection. Oui. Le niveau est très très élevé et souvent elles échouent au début de la formation.
Ou au contraire, vous êtes une femme et on sent ce qui est intéressant, la curiosité que vous avez eue à retranscrire leur métier, leur mission à tous ces hommes au gré de différentes interventions, de la Guyane au Groenland. Elle vous est venue d'où cette passion pour ces soldats?
Elle m'est venue tout simplement du fait qu'on en entend parler sans les voir, sans savoir où ils vont. Notamment à l'occasion, malheureusement, du décès des deux commandos Uber, les nageurs de combat, l'année dernière,
dans
en mai dernier.
Oui.
Cette célébration aux Invalides, leur cercueil arrivé dans cette enceinte et toute l'émotion que ça a créée. On ne sait pas où ils sont et en même temps, on devine qu'ils sont sur tous les terrains d'opérations extérieures. Mmh. Et j'ai eu envie de m'y intéresser. Comme vous disiez, le fait d'être une femme, c'était aussi l'occasion pour moi, en choisissant le côté fictionnel aussi des choses, ça me permettait de toucher un autre public, notamment le public des femmes, les jeunes aussi, pour leur faire découvrir ce monde.
Voir susciter des vocations, parce qu'évidemment, on est dans la fiction, mais tout est absolument avéré. Vous avez d'ailleurs fait vérifier les moindres détails de ces missions au commandement des unités spéciales.
Oui, tout à fait. Et donc, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de les suivre sur le terrain, à Lorient notamment, leur entraînement et la sélection aussi des jeunes marins qui arrivent à 19 ans et qui découvrent un univers parfois fantasmé et qui sont tout d'un coup devant un exploit à accomplir pour gagner le béret vert.
Ouais, on va en parler de ce jeune marin, par exemple, il s'appelle Tom et vous allez le suivre au gré de ses différentes aventures. C'est une nouvelle recrue très prometteuse mais qui va vraiment apprendre son métier en situation. Secrètement, il nourrit le rêve d'intégrer le commando Uber, qui est la crème de la crème, les nageurs de combat. Lui qui sera surnommé Bidou par ses compagnons d'armes. Pourquoi Bidou ?
Bidou, c'est le terme avec lequel on désigne la plus jeune recrue dans un commando.
D'accord.
Le commando Uber étant, lui, c'est le seul commando qui est à côté de Toulouse.
À Saint-Mandrier.
Les six autres commandos sont à Lorient.
Oui, on apprend notamment, puisqu'on parle de ce commando Uber, un autre terme, c'est celui de plancton. Le plancton, c'est le nom que se donnent Harry et Kim en mission, écrivez-vous. Depuis le jour où ils étaient restés en statique dans un port, le long d'un embarcadère, et s'étaient retrouvés assaillis et recouverts de micro-organismes qui avaient dû les prendre pour un récif, sur leur combinaison, de minuscules poissons étaient venus se coller, et une fine couche de plancton s'était aussi formée. Ça veut dire que ces hommes en binôme peuvent rester des heures en planque.
Ils restent en planque sous l'eau, en plongée, ils ne descendent pas en dessous de 7 mètres parce qu'ils ont un système d'oxygénation qui fait qu'il faut qu'ils soient à cette profondeur.
Mmh. Notamment pour ne pas produire de bulles aussi.
Ils ne produisent pas de bulles puisqu'ils ont un circuit fermé, ils sont à l'oxygène pur. Et donc, il leur arrive effectivement d'être planqués sous l'eau, à la surface, à fleur d'eau, et à observer ce qui se passe et à guetter l'ennemi. Ils ont besoin justement de garder énormément de concentration. La moindre minute d'inattention, ça peut être fatal. Donc, c'est vraiment des hommes mi-hommes, mi-poisson.
C'est ça, on est vraiment dans l'amphibie et puis dans ces hommes exceptionnels. Alors, on vous suit, Manuel Calma, dans ses commandos marines dans le golfe de Guinée, à Djibouti, sur ce bateau intercepté qui est un repère de cocaïne près de l'île de Curaçao. Et j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, cette cérémonie militaire aux Invalides après la mort de deux de ces hommes. Lors d'une libération d'otages, ils sont tombés, c'était au Burkina. On se souvient peut-être, les auditeurs les premiers, de la force du binôme qui avait été représentée par cette sangle de vie tendue aussi entre les deux cercueils.
Oui.
En réalité, cette sangle de vie, elle leur permet aussi de plonger à deux.
À deux.
Par sécurité, par philosophie aussi.
Exactement. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les autres commandos, hein, que ce soit des snipers, des libérations d'otages. Ils fonctionnent en binôme. Hein. Alors, ils ne sont pas attachés effectivement quand ils fonctionnent sur le terrain, sur Terre. Mais ils ont cette idée de travailler à deux, de se faire une confiance totale, de se connaître à 100%. Et ça leur permet justement d'aller beaucoup plus loin sans prise de risque. Hein.
Oui.
Généralement, c'est des hommes qui savent à la fois gérer le stress et le risque. Ce ne sont pas des casse-cou.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez travaillé aussi pendant 2 ans sur les hommes du GIGN,
oui,
que je connais un petit peu aussi. On n'est pas du tout dans les têtes brûlées, dans les mercenaires. Ce sont des gens très déterminés, mais qui ont une exigence et une maîtrise de leurs propres sentiments.
En fait, ils s'entraînent tout le temps. Même s'ils ne sont pas en mission, ils s'entraînent. Il faut dire que ce n'est pas forcément facile,
oui,
pour la famille, parce qu'ils doivent avoir une structure mentale très solide. Donc, généralement, ils sont pères de famille, mais ils partent 8 mois par an à l'étranger, en mission. Et le reste du temps, même quand ils rentrent en France, ils continuent à s'entraîner. Ils apprennent vraiment à maîtriser tout ce panel en fait, de difficultés, de pièges, parce que finalement, ce sont des pièges. Le danger, le stress, ils sont dans la tempête tout le temps. Ils sont dans l'œil du cyclone.
Ouais, sur la terre, sur la mer, dans les airs, parce que ce sont des éléments qu'ils maîtrisent. Hein. Évidemment, on a beau parler de commandant marine, ce sont 3 éléments qu'ils maîtrisent. Vous relatez, Manuel, notamment les manœuvres des chuteurs qu'on largue à 8000 mètres d'altitude, qui tombent avec une précision millimétrique, avec un barda sur le dos impressionnant.
Oui, ils ont une dérive de plusieurs kilomètres. Parfois, ils ont pendant 3 quarts d'heure, ils sautent,
ils
planent. Et en fait, leur surface d'atterrissage, c'est 20 mètres carrés. Hein, c'est minuscule.
C'est incroyable. C'est ça qui vous plaît aussi. C'est, vous qui êtes journaliste, c'est aussi cette rigueur dans la formation, leur précision extrême.
Oui, ce qui m'a plu. Et puis, alors en plus, comme auteur, c'était passionnant parce que je me suis à la fois replongée dans toute la géopolitique des différents conflits. Mmh. Je les ai suivis sur le terrain et j'ai écouté aussi leurs récits d'hommes, parce que Ils sont le premier à dire qu'ils sont pas des, ce ne sont pas des surhommes et ce ne sont pas des héros. Ce sont des hommes ordinaires, mais qui ont décidé d'aller un petit peu plus loin. Ce sont tous des marins, des jeunes marins, qui ont décidé d'aller un petit peu plus loin, de repousser un peu plus loin les limites. Et c'est vrai que c'est un matériau qui est fabuleux pour un auteur et pour un journaliste.
Oui, bien qu'il soit mutique, assez taiseux. Hein, vous décrivez notamment un d'entre eux et qui s'amuse de cette blague en disant finalement c'est comme si on avait des branchies à la place des poumons, c'est pour ça qu'on ne parle pas, on est des poissons, on n'a rien à dire, puis on se tait beaucoup. Ce culte du silence a fallu le briser un peu pour en apprendre davantage.
Ils ont l'habitude effectivement de se taire. Mm. Et il a fallu effectivement dans les silences, dans les regards, en étant patient aussi, parce qu'ils ont essayé de scruter chez moi ma capacité à être patiente, à les écouter.
Ça fait 2 ans, je crois, qu'ils ont obtenu.
Et voilà. Et petit à petit, effectivement, j'ai pu avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir construire des histoires au plus près du réel.
Je ne vais pas en dire plus parce que j'aurais vraiment que les auditeurs découvrent cet ouvrage. Au cœur des tempêtes, les commandos marines, Manuel Calma, que vous publiez aux éditions du Rocher. J'étais très heureuse de vous accueillir parce que je vous aime beaucoup. On a fait une année ensemble à la programmation du Tour de la Question. Vous faites maintenant partie de la belle équipe de la matinale. Et ce livre est formidable comme vous, donc je tenais à le signifier aux auditeurs. Merci.
Merci
beaucoup, Manuel.
Merci, Wendy.
Je souscris. Elle est formidable, cette femme.
Bon. Ah, on est d'accord.
À suivre, une chanson dans la tête, Wendy Bouchard.
Avec une artiste de 23 ans qui emporte les salles avec son Brawl Tour et qu'on retrouve Place de la Nation, Fabien Lecoeuvre nous dit tout sur Angèle.
18h50 de votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Et c'est l'heure, Wendy Bouchard, d'une chanson dans la tête.
Laisse-moi te chanter. Poli pour la télé, mais va te faire balance ton corps. Balance ton corps.
Angèle et Fabien Lecoeuvre, bonsoir Fabien.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Une chanson de circonstance au terme de ces marches un peu partout en France. 49 000 personnes à Paris, Place de la Nation. Le concert s'annonce avec Angèle pour dénoncer ces violences.
Bien sûr, dans moins d'une heure, elle sera sur scène, Angèle, Place de la Nation, pour clôturer en tout cas cette grande marche historique. Balance ton quoi, pour moi c'est plus qu'une chanson, c'est un hymne aujourd'hui. Ça s'est positionné au fil du temps et des mois. Un peu comme la chanson de Michel Delpech quand il avait sorti Les Divorcés en 1973, qui a permis qu'on légifère derrière pour autoriser enfin le divorce par consentement mutuel. Eh bien, balance ton quoi, je pense vraiment qu'une chanson peut faire évoluer la société.
En référence au balance ton port et au MeToo, évidemment.
Absolument, puisque l'idée de cette chanson, elle dénonce justement le sexisme et fait référence au fameux balance ton port, comme vous le disiez, Wendy, a inspiré considérablement Angèle lors d'un déplacement dans le métro bruxellois. Et oui, c'était sur la ligne 6, je le précise, on a le lieu précis exactement. Un jour, elle s'est fait insulter par un mec, parce qu'elle portait une jupe, tout simplement, Angèle, très choquée par ces remarques déplacées de ce voyageur sur la ligne 6. En rentrant chez elle, elle a écrit, tenez-vous bien, d'une traite, le texte de Balance ton port. Et aujourd'hui, elle aime dire, je dis merci à ce connard, car grâce à lui, j'ai fait un tube, affirme et confirme Angèle. Alors dans cette chanson, Angèle, justement, faut le dire, elle dénonce véritablement ce sexisme ordinaire, mais aussi les propos sexistes des rappeurs. Elle se sent féministe, mais pas militante. Elle est convaincue que l'humour est une vraie arme aujourd'hui pour faire changer les choses. Et
oui.
Profondément raison.
Et son clip le signifie avec Pierre Niney
la
aussi dans une
participation absolument de l'acteur
Pierre Niney. Dans une
mise
en scène
formidable. Ah oui, qui est assez exceptionnelle.
Regardez, elle est toute jeune, Angèle, vous citiez Bruxelles, c'est la ville où elle habite. Enfin, elle fait des mouvements très pendulaires entre Paris et Bruxelles. Elle a 23 ans et un talent fou.
Ouais, c'est une jeune bruxelloise de 23 ans qui connaît bien le monde du spectacle puisqu'elle est née dedans. En effet, Angèle Van Lycken est une fille du chanteur Marca. Alors Marca, c'est un artiste belge qui connaît depuis les années 90 de très beaux succès.
Oui.
Et de la comédienne, sa maman, Laurence Bibot.
Oui.
Et oui, jeune comédienne.
Elle
et son frère.
Enfant de la balle.
Et son frère n'est autre que le rappeur, bien sûr, Roméo Elvis.
Elle sera en tournée avec son Brawl Tour du 29 novembre au 1er décembre au Zénith. Écoutez ceci, tout oublié.
Alors c'est vrai que c'est aussi avec la sortie de son premier album intitulé Brawl qui donne aujourd'hui le Brawl Tour. Alors,
c'est quoi Brawl?
Wendur, alors voilà, j'allais vous dire Brawl, ça veut dire en belge, ça veut dire bordel, un peu désordre, bordel.
Désordre, d'accord.
Donc c'est un peu, c'est un mot Jones, on va dire, pour cette nouvelle génération. Elle connaît bien sûr un immense succès avec son premier album qui est sorti le 5 octobre 2018 et qui se vend à plus de 600 000 exemplaires. Et elle sera d'ailleurs, alors la sortie là, le 8 novembre, une réédition de son disque disque avec 7 nouvelles chansons, bien sûr.
On la voit en couverture sur la pochette.
Ah ouais. Elle est absolument divine, magnifique.
Elle a quoi ? Elle a peut-être 7-8 ans, elle a perdu une dent, voilà, une de ses dents de lait. Elle a sa petite bouche ouverte comme ça. Ça lui ressemble, quoi. C'est très fantaisiste.
Oui, oui. Et puis elle amène un nouveau style. Je rappelle quand même qu'elle est auteure, compositrice de toutes ces chansons. Il faut savoir que ce sont des vrais textes. C'est la société, c'est aussi une photo de la société à un moment précis. Mmh. Et puis il faut rappeler que vendredi prochain, le 29 novembre, la révélation pop de cette année, donc Angèle, sera sur la scène du Zénith de Paris jusqu'au 1er décembre avec son Brawl Tour. Et puis il y aura une prolongation évidemment du 18 au 20 février 2020. Elle passera à l'étape supérieure avec l'Accor Hotel Arena où elle se produira encore pendant quelques jours. Donc c'est plutôt très très bien.
Elle a aussi du succès en Belgique, Angèle.
Énorme succès en Belgique. Mmh. Elle connaît bien ce pays, elle aime ce pays, et puis la révélation pour faire son métier, ça c'est assez étonnant. Elle a pris des cours de solfège très très tôt, elle voulait faire du solfège, elle aime le mot solfège, pour elle ce mot c'est magique, c'est un très beau mot de la langue française. Mmh. Et puis le soir même, elle dit à son père, elle lui annonce qu'elle veut aller en classe, tout simplement en classe de solfège pour apprendre la musique, et puis il l'inscrit donc chez une professeure qui s'appelle Anya, oui, qui est une jeune professeure de piano avec un joli accent russe. Elle apprend la base de la théorie, on va dire, de musicale, sans l'ennuyer et avec passion, ce qui est intéressant pour ne pas écœurer très tôt les enfants du solfège. Et ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui encore, elle appelle régulièrement cette professeure Anya.
Angèle est floue ce soir.
Tout est devenu flou.
Une artiste qui doit faire plaisir à Véronique Sanson parce qu'elle écrit et elle chante en français. C'est absolument la francophonie aussi en valeur et à l'honneur.
Mais sa carrière n'est pas aussi floue qu'on veut bien le dire.
Ça c'est sûr, c'est même très...
Puisqu'elle a même lancé récemment, vous savez qu'elle a une marque de vêtements. Elle adore en tout cas, Angèle, elle adore la loutre. D'ailleurs, tous ses fans, elle les appelle mes loutres.
Et sa marque s'appelle depuis... Loutre, c'est
oui, alors ça s'appelle Loutre, c'est une marque de vêtements. D'accord. Alors loutre, pourquoi ? Parce que quand elle était petite, elle avait vu une loutre au Canada en voyage avec ses parents. La deuxième raison, c'est que son premier copain l'a surnommée affectueusement ma loutre, car il trouvait qu'elle aimait bien souvent dormir comme les loutres et qu'elle dansait aussi comme une loutre en ondulant son corps.
Ah, c'est mignon les loutres.
Donc voilà, donc...
Les loutres d'Angèle sont à l'écoute, de plus en plus influentes sur les réseaux. Hein. Son compte Instagram, c'est quoi ?
C'est 2 200 000 personnes qui la suivent quotidiennement.
Et son public, ceux de son âge ?
Oh, son public, on va dire, c'est entre 8 ans et 16 ans.
Oui.
Et fatalement, il y a les parents qui accompagnent souvent leurs enfants. C'est des salles, mais pleines en permanence. En tout cas, c'est mérité. Et un des gros titres encore, c'est le nouveau, c'est Oui ou Non.
Ah, Oui ou Non ? Écoutez, Angèle. Vous redécouvrirez dans cet album Angèle, la suite, ce tour, la thune, Balance ton quoi, Jalousie, Nombreux, La loi de Murphy.
Et une chanson qui fait couler beaucoup d'encre, Tu me regardes.
Tu me regardes,
tu me regardes, justement, c'est-à-dire je joue avec le roi, mais la reine a pris mon cœur. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Encore.
Angèle Van Laken à l'honneur, une chanson dans la tête, on va réécouter quelques secondes de Tout oublier, qu'elle chante en duo avec son frère Bullshitty, Roméo Elvis.
Ah oui.
Merci, non. Sera tout à l'heure. Merci, Kevin.
Il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. On joue. Mais là, j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
Elle a tourné sur Europe, hein, celle-ci. Hein.
Ah oui, elle a bien tourné. Mais il faut préciser que le merchandising sur ce genre de jeunes artistes est plus important. Le chiffre d'affaires est plus important parfois que les ventes de billets de concert, bien qu'elles remplissent les salles partout. Hallucinant, cette carrière incroyable.
Artiste qu'on soutient depuis longtemps que vous mettez en lumière aujourd'hui dans une chanson dans la tête. Angèle, merci. On est ensemble jusqu'à 20h, chers amis. Et c'est le grand journal se poursuit avec le journal de Sophie Echen dans un instant. Et 19h15, on va mettre en lumière les lanceurs d'alerte, lanceuses et lanceurs d'alerte qui sont essentiels à l'intérêt général. A tout de suite.
Il est 19h, merci d'écouter Europe 1.
Ça tombe, ça n'arrête pas, c'est le déluge. Toutes les routes autour de Biot sont fermées, là. On est complètement isolés. Là. Il paraît que ça va être plus fort à partir de 21h, alors on attend.
Vigilance rouge dans les Alpes-Maritimes pour la première fois de son histoire à cause des fortes pluies. Autoroute A8 coupée, aéroport de Nice fermé. Vigilance rouge aussi dans le Var avec les trains à l'arrêt et un message des autorités, éviter tout déplacement dans la région.
49 000 personnes ont marché pour dire non aux violences sexistes et sexuelles aujourd'hui à Paris. Une manifestation historique selon le collectif organisateur Nous Toutes.
Les hommes doivent réagir à ça aussi. Donc la place des hommes doit être vraiment centrée aussi contre ces violences-là.
Presque un mois avant les fêtes de Noël, et les Français commencent déjà leurs achats, car il faut anticiper.
On n'a pas envie de se retrouver à la dernière minute à chercher pour tout le monde. Il y a un peu moins de monde aussi dans les magasins. Voilà.
Et puis une grève des trains dans le nord de la France, lundi et mardi, un avant-goût de la grande grève prévue le 5 décembre. Voici le journal de Sophie Echen.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Le Var et les Alpes-Maritimes sont donc placés en alerte rouge, pluie et inondation.
Oui, la situation devient de plus en plus délicate dans le sud-est de la France. Les très fortes précipitations provoquent la montée de plusieurs cours d'eau, les affluents de l'Argence notamment, ainsi que plusieurs fleuves côtiers. Sur place, les habitants sont invités à rester confinés chez eux, en hauteur de préférence. C'est notamment le cas à Biot, dans les Alpes-Maritimes, une commune déjà touchée par des inondations meurtrières en 2015. Le traumatisme est encore très présent. Philippe Brion est boulanger à Biot. Il a évacué son commerce ce matin pour se réfugier chez lui.
Moi, je regarde par la fenêtre. Le temps est noir et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça n'arrête pas. C'est le déluge. Donc, nous avons tout calfeutré, tout remonté, essayé de protéger le maximum. Tous ceux qui ont des maisons qui sont dans la plaine, ils sont tous à l'étage, c'est clair. Toutes les routes autour de Biot sont fermées, n'importe comment. On est complètement isolé. Par précaution, la mairie a tout bloqué. Bon, j'ai eu un gros dégât en 2015, le 3 octobre 2015. J'ai eu 1,80 m d'eau dans l'entreprise, en boulangerie. Bah, c'est là qu'il y a eu 3 morts à Biot, c'était juste à côté de mon magasin. On a tous peur que ça recommence. On a vécu un truc il y a 4 ans qui nous a pris quand même 5 mois de notre vie, hein, parce qu'il a fallu se reconstruire en 5 mois. Et là, on n'a pas envie de revivre ça. Hein. C'est quelque chose qui est marqué. Hein. Mais là, pour l'instant, on attend. Il paraît que ça va être plus fort à partir de 21h. Alors, on attend.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Nicolas Feldman. Dans la région, les autorités sont en alerte. Elles s'efforcent de mettre en garde la population. À Cannes, par exemple, des alertes retentissent toutes les 30 minutes dans les haut-parleurs de la ville. Écoutez le maire, David Lisnard.
Les intempéries sont violentes, le littoral est extrêmement abîmé. Donc on a mis en place tous les dispositifs prévus, aussi bien d'alerte que de protection des personnes. Depuis 15 heures, on alerte par haut-parleur, outre les sirènes qui ont été enclenchées, et outre toutes les informations sur les réseaux sociaux, la radio et par les SMS envoyés à la base de données des volontaires que nous avons. Et j'ai fait évacuer les centres commerciaux pour éviter soit de confiner les gens dans les centres commerciaux, ce qui n'est jamais très bien, soit d'envoyer une multitude de voitures au même moment. Donc on a fait progressivement fermer et évacuer les centres commerciaux. Ça fait partie des dispositions que jusqu'alors je n'avais jamais prises depuis que je suis élu.
Le maire de Cannes répondait pour Europe 1 à Romain Oquet. La pluie ne cesse donc de tomber depuis hier. On attend l'équivalent de 2 mois de précipitations d'ici demain. Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant dans le sud-est de la France. Quelle est la situation à l'heure actuelle?
Écoutez Sophie, il pleut toujours intensément dans le Var, notamment dans l'Est varois et dans les Alpes-Maritimes. Et la situation ne va pas s'améliorer. Le phénomène pourrait même par endroits redoubler d'intensité. Les autorités rappellent qu'il faut éviter tout déplacement, sauf urgence absolue. Éviter de descendre dans les sous-sols, notamment les parking où beaucoup sont tentés d'aller chercher leur véhicule. Ce n'est pas le bon réflexe. Il faut s'éloigner des cours d'eau. Plusieurs sont en crue. Le Gapot, dans la région d'hier, où depuis ce matin, 600 personnes ont été évacuées d'un quartier proche du cours d'eau. L'Argence et la Nartourbi sont proches aussi de niveaux records. Conséquence, les transports ferroviaires sont à l'arrêt, notamment entre Toulon et Saint-Raphaël et Nice. L'autoroute A8 est coupée de Villeneuve-Loubet à Fréjus, dans le sens Italie-Aix-en-Provence. Là, c'est la Brasse, un cours d'eau qui longe l'autoroute qui déborde. Le côté opposé a été rouvert à la circulation, mais pourrait être à nouveau fermé dans la nuit. À l'aéroport de Nice, aucun avion n'atterrit ou ne décolle et il faudra attendre des heures avant un retour à la normale. Vous l'avez dit, pour la première fois, les Alpes-Maritimes sont en alerte rouge. Dès 18h, tous les centres commerciaux ont reçu l'ordre de fermer. Au total, dans ce département, les pompiers sont intervenus à plus de 400 reprises. Dans le Var, on dénombre plus de 530 interventions. Le septuagénaire porté disparu depuis ce matin, Saint-Antonin-du-Var est toujours activement recherché. Et à l'instant, Jacques Terrance, qui est sur le terrain du côté de Roquebrune-sur-Argence, nous informe que les sauveteurs sont très inquiets car au Muy, une embarcation des secours avec plusieurs personnes à bord, a chaviré. Les pompiers espèrent avoir récupéré tout le monde. Des reconnaissances sont en cours. En tout cas, dans ce secteur, plusieurs personnes, depuis le début de la journée, ont été récupérées par hélicoptère.
Merci beaucoup Frédéric Michel dans le Var pour Europe 1. Un incendie aux conséquences dramatiques à Folchevillard en Moselle. Une petite fille de 4 ans et son frère de 15 ans sont morts dans l'embrasement généralisé d'une maison. Le feu a aussi fait 3 blessés, dont 2 graves, notamment la grand-mère des 2 victimes. Une femme âgée de 70 ans brûlée aux jambes et au dos.
19h06, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Hachène, Wendy Bouchard.
Parlons maintenant de cette grande marche de l'histoire de France, la plus grande contre les violences sexistes et sexuelles. Les mots du collectif Nous Toutes à l'origine des rassemblements qui avaient lieu un peu partout en France cet après-midi. Toujours selon ce collectif, 150 000 personnes, Sophie Hachène, ont donc marché pour dire non à ces violences et aux féminicides.
La marche parisienne a rassemblé pas moins de 49 000 personnes selon le comptage du cabinet Occurrence pour un collectif de médias dont Europe 1. Dans le cortège, des hommes et des femmes de tous âges, parmi eux, Noël Agossa, président du collectif Plus Jamais Ça. Il a lui-même perdu sa nièce et il insiste, les hommes doivent prendre leurs responsabilités.
Oui, j'ai perdu ma nièce qui avait 21 ans, que j'ai élevée depuis l'âge de 3 ans, donc qui était quasiment ma fille. Cela date de 3 ans, voilà, 3 ans déjà, donc le jugement n'est pas encore passé. Et j'ai pris ce combat à bras le corps parce que bon, voilà, il ne faut pas laisser juste ce combat-là mourir. Les hommes doivent réagir à ça aussi. Donc il faut aussi que les hommes puissent prendre leur place dans ce combat. Les hommes, c'est quoi? C'est des enfants, des ados, des adultes, des papas, des grands-parents. Donc la place des hommes doit être vraiment centrée aussi contre ces violences-là. Si les hommes restent juste des hommes qui ne se mélangent pas avec les femmes dans ce combat-là, franchement, ça restera un combat de féministes pur et dur et ce sera une guéguerre entre les hommes et les femmes et c'est pas l'objectif.
Des propos recueillis par Mathieu Bock à la marche contre les violences faites aux femmes à Paris cet après-midi. Eux dénoncent les violences policières. Plusieurs centaines de gilets jaunes se sont réunis à Valenciennes aujourd'hui pour leur acte 54. Un rassemblement en soutien à Manuel, ce manifestant éborgné la semaine dernière à Paris, après avoir reçu un projectile de la police.
Nous sommes à moins de 2 semaines de l'appel à la grève générale du 5 décembre, avec des complications à prévoir, notamment du côté de la SNCF.
Les usagers du TGV Nord auront un avant-goût des difficultés à venir dès le début de la semaine prochaine, car après plusieurs mois de négociations, les conducteurs de train ont déposé un préavis de grève pour lundi et mardi. Il va falloir composer avec un trafic perturbé, Carole Ferry.
Oui, bien écoutez, pendant ces 2 jours, vous aurez un TGV sur 2 en moyenne dans les Hauts-de-France, sur les lignes Lille-Dunkerque ou Lille-Valenciennes par exemple. Ce sera mieux sur l'axe Paris-Lille, avec 8 TGV sur 10 en circulation. Le reste du trafic sera normal. Dès ce soir, la SNCF a commencé à envoyer des SMS aux voyageurs concernés. Les échanges et remboursements se feront sans frais. Alors pourquoi cette grève? Eh bien, tout part d'un changement d'horaire des trains. Ça se fait chaque année, ça entraîne souvent des points de friction. Mais là, les changements sont beaucoup plus importants que d'habitude. Une petite révolution dans les horaires pour accompagner la croissance du trafic, explique la direction. Il y aura 11% de places en plus l'an prochain entre Paris et Lille. 2 millions de voyageurs supplémentaires. Sauf que ça change beaucoup dans le quotidien des 250 conducteurs de train, sur leur rythme de travail, mais surtout les primes, qui restent le plus gros point de désaccord.
Carole Ferry.
Comme chaque année, on se dit qu'on va anticiper ses courses de Noël pour ne pas se retrouver dans la cohue des derniers jours.
Alors justement, aujourd'hui, beaucoup de Français sont allés faire les boutiques pour dénicher leurs cadeaux. Les clients préfèrent être prévoyants. Reportage de Caroline Baudry.
On n'a pas envie de se retrouver à la dernière minute à chercher pour tout le monde.
Dans ce centre commercial parisien, les guirlandes et les boules de Noël brillent depuis plus d'une semaine. À un mois du réveillon, ils sont déjà nombreux à anticiper leurs achats dans ce décor de fête. Hugues, ses paquets sous le bras, a trouvé ses cadeaux sereinement.
Il y a un peu moins de monde aussi dans les magasins, qu'on est sur une période où il y a aussi des avantages sur les prix à certains endroits. Il y a les Black Friday qui perdurent encore ce week-end. Voilà.
Ces clients de la première heure évitent la foule aux caisses des boutiques, mais aussi sur la route et dans les transports. À l'annonce de la grève du 5 décembre, Josiane a pris ses précautions.
J'ai 70 ans, j'ai pas envie de me balader quand les gens se disputent et sont énervés. On préfère éviter qu'il y ait des embouteillages déjà, que les magasins soient fermés. Qu'il y ait peut-être aussi, on ne sait jamais, des violences dans les rues, tout ça. Bon, je préfère être à la maison.
Et pour éviter de perdre du temps dans les magasins, la majorité repère et compare les produits sur Internet avant de se les faire livrer.
Un reportage signé Caroline Baudry.
Sophie Hachène, à tout à l'heure 19h30 pour le rappel de l'actualité.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcadB vous présente la météo.
Vigilance, inondations, crues et pluie dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, en particulier Valérie Darmon. On fait le point sur ce temps qui évolue comment dans les prochaines heures, Valérie?
Eh bien, dans le courant de la nuit, sur PACA, les pluies à caractère orageux vont rester conséquentes. On attend encore 120 à 150 mm d'eau de pluie supplémentaire sur le Var et les Alpes-Maritimes. Pluie qui va tomber, vous le savez, sur des sols déjà fortement saturés. Il pleut encore en continu sur le Languedoc et l'est du Massif central, ainsi que sur le Pays Basque et le piémont ouest des Pyrénées. Et c'est dans l'après-midi de ce dimanche que la situation va se calmer sensiblement. Sur le reste de la France, c'est toujours un temps bien nuageux, avec de rares trouées ensoleillées qui s'annoncent, avec au lever du jour des phénomènes de brume, des brouillards tenaces en plaine d'Alsace qui vont avoir du mal à se dissiper. Les températures du matin, moins 1 à 3 degrés dans l'est, 3 à 8 ailleurs, jusqu'à 12 sur le littoral méditerranéen. Les maximales sont partout entre 10 et 13 degrés, jusqu'à 15 autour du golfe du Lion.
Merci Valérie Darmon. Il est 19h11, place au sport, Wendy Bouchard.
Avec vous Simon Rubin, le retour. On commence avec du foot et la 14e journée de Ligue 1. Lyon est sous pression.
Les Lyonnais reçoivent Nice en ce moment. Match très attendu à domicile pour Lyon et pour espérer repartir de l'avant au classement. Un match perturbé et même retardé après la pause par des fumigènes dont les fumées empêchaient toute visibilité. Maxime Choche, vous êtes sur place. Finalement, le match a pu reprendre et Lyon tient le choc.
Oui, tout à fait. Le match qui a été retardé une bonne dizaine de minutes au retour des vestiaires, vous le signalez, à cause de trop nombreux fumigènes. Il y a 2-0 pour les Lyonnais ici au Groupama Stadium face aux Niçois. Des Lyonnais qui évoluent à 10 contre 11 depuis l'expulsion sur carton rouge de leur défenseur latéral Marsal à la 34e minute. Les joueurs de Rudy Garcia depuis font le dos rond dans cette deuxième mi-temps, assez haché par de nombreuses fautes. Nice a bien cru réduire la marque à la 49e minute par son attaquant danois Kasper Dolberg, mais but refusé pour une position de hors-jeu. Grosse occasion pour l'heure à l'heure de pour Lyon à l'heure de jeu sur une frappe de Bertrand Traoré, contrée du dos par son coéquipier Dembélé. Traoré qui il y a de ça quelques minutes aurait bien failli tripler la marque également, mais frappe non cadrée. Ici donc après ça fait 69 minutes de jeu, il y a donc 2-0 toujours pour l'Olympique Lyonnais. Les buteurs, Rennes Adélaïde et Dembélé sur pénalty qui devient le meilleur buteur du championnat de France.
Maxime Choche en direct de Lyon et puis à 20h le multiplex, Amiens Strasbourg, Brest Nantes, Metz Reims Angers Nîmes et Dijon Rennes.
Voilà pour la soirée foot avec du rugby maintenant. Un bilan mitigé aujourd'hui Simon pour les clubs français en Coupe d'Europe.
Après la défaite de Clermont hier soir, on attendait un peu mieux. Ce fut le cas avec Toulouse, victorieux en début d'après-midi, du Connacht, mais on pouvait s'y attendre. Match qui ne fut pas si simple hein, pourtant, mais l'essentiel est là pour l'ouvreur. Romain Tamac.
On le savait de toute façon que ça allait être un match assez compliqué. On connaît l'équipe du Connacht, donc on les avait bien regardé la vidéo. Et on savait qu'avec les conditions aussi, ça allait être pas simple. Donc ils nous ont pas fait mentir. Donc on s'est accroché jusqu'au bout et on s'en sort bien en remportant le bonus aussi. La Coupe d'Europe, ça va très vite. Donc une petite heure, ça peut coûter très cher. On l'a vu, on a fait deux erreurs de défense qui nous coûtent cher. Donc. Non, faut rester très attentif et pour l'instant on a encore envie dans cette compétition, donc maintenant on va passer au top 14 et vite rebasculer après sur la Coupe d'Europe. Quand on voit le parcours qu'on a fait l'année dernière, on a tous envie de revivre le même, voire mieux, donc non, c'est ça, c'est vraiment de jouer cette Coupe d'Europe à fond pour voir, on sait pas ce qui peut se passer, mais pourquoi pas aller plus haut.
Propos recueillis par Patrick Anselmetti. Mauvaise nouvelle en revanche pour Lyon, battu par le Leinster à domicile 13-6. Le Leinster vice-champion d'Europe en titre. C'est la deuxième défaite consécutive pour Lyon dans la compétition et donc l'assurance quasiment de ne pas continuer pour les phases finales. Et enfin en ce moment, le Racing est sur le terrain du Munster en Irlande et mène 14-6 à une minute de la mi-temps.
C'était Simon Rubin pour l'actu sportive du jour.
Les lanceurs d'alerte se réunissent ce week-end en région parisienne, Wendy.
Et oui, ils se mettent en danger pour l'intérêt général des femmes, des hommes. Comment les écoute-t-on? Comment les protège-t-on en France? Témoignage de Marine Martin que je vous présente dans un instant sur Europe 1.
Vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1. Il est 19h16 et dans l'actualité, ce salon qui fait la lumière sur ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte.
Oui, au fond, ils sont un petit peu des chevaliers des temps modernes, déterminés à faire triompher la vérité. Ils agissent souvent sans d'autre intérêt que celui de réparer une injustice. Bonsoir Marine Martin.
Bonsoir.
Vous présentez ce week-end à Montreuil votre livre Dépakine, le scandale, mais aussi le travail de votre association dont on va parler. Je rappelle le sous-titre de votre livre, Je ne pouvais pas me taire. Un livre préfacé dénoncé par Irène Frachon, on a beaucoup parlé, qui a révélé le scandale du médiateur. Et vous me disiez il y a quelques instants hors antenne que c'était un peu votre modèle, cette femme, lanceuse d'alerte.
Oui, tout à fait. C'est quand j'ai vu Irène Frachon à la télévision que je me suis dit, oui, c'est peut-être possible. Je peux lancer la lettre, je peux la porter. Et elle a été mon mentor, effectivement, et j'ai essayé de prendre exemple sur elle pour commencer à dénoncer ce scandale sanitaire.
Vous allez nous parler des risques que cela induit de lancer une alerte du genre en dénonçant le scandale de la Dépakine, un antiépileptique administré depuis les années 60 avec des dangers connus pour le fœtus chez les femmes enceintes, ce qui n'a pas empêché vos médecins, comme tant d'autres, de vous l'administrer. Il se trouve que vos deux enfants, Salomé et Nathan, ont développé des malformations, des troubles neurodéveloppementaux, et c'est à un certain moment, quand vous faites le lien justement entre ce médicament et leurs troubles, que vous décidez justement de lancer l'alerte.
Oui, tout à fait. En fait, bon, quand ma fille est née, à part le fait qu'elle avait un visage un petit peu étrange, c'est surtout quand mon fils est né 3 ans plus tard que je me suis dit, il a une malformation génitale. À ce moment-là, dans la presse, on parlait des fils d'agriculteurs qui avaient ce même type de malformation. Puis les années passent, à l'âge de marcher, il ne marchait pas. Et donc, il commençait à développer des troubles neurocomportementaux et j'ai commencé à m'interroger. On me disait, mais ne vous tracassez pas, Madame Martin, l'important c'est qu'il soit bien pris en charge. Je disais, mais attendez, je veux un troisième enfant, je voudrais savoir si c'est génétique. Donc, je n'ai jamais relâché la pression sur le pourquoi du comment. Et je trouvais que c'était trop de malchance, pour être honnête, à la fois ces malformations, ces troubles neurocomportementaux. Et j'ai repensé à cet article de presse sur les fils d'agriculteurs et avec ces malformations génitales. Et tout simplement, j'ai repensé que quotidiennement je prenais un médicament et j'ai tapé dans Google médicaments dangereux pour la grossesse. Et là, on est en 2009, je suis tombée sur le site du CRAT, le centre de recherche des agents tératogènes. Tératogène, ça veut dire monstre, de l'hôpital Trousseau à Paris, qui disait que le médicament le plus dangereux pendant la grossesse, c'était le Roaccutane, cet anti-acnéique. Et le deuxième, c'était la Dépakine que je prenais quotidiennement. Je me suis jetée sur ma boîte de médicaments. Et là, dans la notice, sur la grossesse, rien du tout. Donc, alors qu'effectivement, je trouve très rapidement plein de documents scientifiques qui disent que c'est connu, que ça entraîne des malformations et de l'autisme.
À ce moment-là, Marine Martin, vous faites les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que vous commencez à créer une association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, l'APESAC, ouais, pour justement être plus forts ensemble.
Voilà, c'est 2011. Ça, parce que je me dis, il faut que je trouve d'autres mamans dans mon cas. Je ne suis pas un cas isolé. L'épilepsie qui est donnée, ce médicament est donné pour soigner l'épilepsie, c'est des maladies très répandues. Donc potentiellement, il y a des milliers de victimes.
Bien sûr.
Et très rapidement, je vais en rencontrer.
L'Agence européenne du médicament entend les alertes. On est 3 ans plus tard, en 2014, et procède à une réévaluation européenne de ces conditions de prescription.
On a dû se batailler avec mes homologues anglaises, parce que je vais découvrir qu'il existe une association en Angleterre.
D'accord.
Et ensemble, on va faire modifier les conditions de prescription du médicament. En fait.
Et puis, vous portez plainte. Là, on est en 2015. Vous portez plainte auprès du procureur de la République pour administration de substances nuisibles, atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, tromperie aggravée, etc. etc. Vous militez depuis lors, Marine, pour un travail d'information. D'accord.
Voilà, c'est ça. Dans un premier temps, je voulais absolument que ce qu'on appelle le consentement éclairé informe les femmes épileptiques et bipolaires qui étaient susceptibles de prendre ce médicament, qu'elles avaient 30 à 40% d'avoir un enfant autiste ou des malformations dans 10% des cas. Donc, c'était gigantesque. Et moi, si j'avais su que je risquais de faire encourir ce risque-là, jamais j'aurais eu une grossesse sous Dépakine, quoi. Donc c'était impensable, parce que derrière, on a ce sentiment de culpabilité qui nous habite. J'ai empoisonné mes enfants, j'ai ingurgité ce cachet quotidiennement, et ça, c'est très dur à vivre.
Cette culpabilité, elle vous donne une force herculéenne pour soulever des montagnes et pour arriver à lancer l'alerte presque seule.
Oui, parce que pour nos enfants, on déplacerait des montagnes. Donc très clairement, il fallait. Et puis il fallait qu'ils arrêtent de le donner aux femmes enceintes sans les prévenir. Et puis toutes ces milliers de victimes qui étaient dans l'ignorance, moi je ne pouvais pas me taire, il fallait que je dénonce ce scandale.
Mais il faut fermer les écoutilles, il y a tous ceux qui vous disent « mais tu n'y arriveras jamais », c'est David contre Goliath, vous contre Sanofi, par exemple, et puis contre la fermeture de tant d'administrations.
C'est ça. Et en fait, c'est comme ça que finalement, je rencontre Irène Frachon à la télévision et je me dis, mais quel est ce jeune avocat parisien qui fait trembler les laboratoires Servier? Et c'est comme ça que je vais décider de le contacter et de partir dans des procédures judiciaires, parce que je comprends très vite qu'avec un petit avocat de campagne, j'aurais jamais
évidemment
aucune chance d'y arriver.
Vous vous dites quoi à un moment donné? Que vous n'avez rien à perdre? Et tout a gagné.
J'avais déjà tout perdu. La santé de mes enfants, c'est ce qu'il y avait pour moi de plus précieux. Donc de toute façon, le reste m'était égal. Et donc, il fallait dénoncer et il fallait qu'ils indemnisent les dizaines de milliers de victimes. Il fallait assumer. C'est pas possible autrement.
Et vous y arrivez. Vous arrivez à susciter l'intérêt, à faire lever le scandale, à faire créer un fonds d'indemnisation pour ces victimes.
Exactement. Ça a été difficile dans la négociation. Ça s'est fait que pour Mediator et H1N1. Donc, il y en a très peu, malheureusement, qui ont bénéficié de ça. Donc, j'ai réussi, sous le gouvernement Touraine, à négocier cette mise en place du fonds d'indemnisation. Avec la PESAC, on a été la première association d'action de groupe à porter plainte, les class action à la française, qui sont possibles que depuis 2016 aussi. Donc, voilà, comme je dis, si on me fout d'un côté par la porte d'un côté, je rentrerai par l'autre. Donc, que ce soit, j'ai attaqué au civil, au pénal, j'ai attaqué aussi l'État, au tribunal administratif, parce qu'effectivement, on peut se poser la question pourquoi dans les notices du médicament, ce n'était pas indiqué. Ils sont quand même les gendarmes du médicament.
Absolument.
Donc voilà, j'ai multiplié les actions judiciaires pour faire pression et sur les autorités sanitaires et sur le laboratoire pour qu'ils indemnisent ces victimes. Les premières victimes commencent à être indemnisées, mais le fonds, là, dernièrement, on a fait voter un amendement à l'Assemblée nationale, ne fonctionne pas bien. Les experts ne sont pas bienveillants à l'égard des victimes. Et ça, c'est vraiment terrible.
Donc, vous redoublez de vigilance. On met sa vie entre parenthèses quand on est lanceur d'alerte, Marine Martin. On arrête de travailler. C'est un travail à temps plein, pour le coup.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'habite en Perpignan.
D'argent.
On me demandait tout le temps de venir pour une réunion au ministère de la Santé, pour une émission télé. Donc, au final, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un choix. Si vraiment je veux avoir une chance d'y arriver, il faut que j'arrête. Donc, il s'est trouvé que j'ai eu une opportunité d'arrêter de travailler à ce moment-là et je me suis dédiée à l'association complètement si je voulais avoir une chance d'y arriver.
Vous vous considérez un peu comme une héroïne, c'est un mot qui est souvent galvaudé, mais je parlais de l'intérêt général pour faire le bien autour de vous. Vraiment.
Oui, pour moi, c'était important d'aider ces gens. Enfin, j'entendais tellement de témoignages de gens dans la douleur, dans la misère, dans la culpabilité que je n'aurais pas pu dormir si je n'aidais pas ces gens-là. Donc, pour moi, c'était important de les aider et puis de faire évoluer la société, qu'on se rende compte que médicaments et grossesse, ben, ça ne fonctionne pas. Au-delà des antiépileptiques, il y a plein de médicaments et on le sait pour l'alcool, on le sait pour le tabac, mais on ne le sait pas pour les médicaments. Et ça, il faut absolument que ça change.
Quel courage, Marine Martin, avec l'APESAC. Vous pouvez regarder tout ce que vous faites aussi sur le site de cette association pour lever le scandale et pour suivre surtout le processus pour ne pas abandonner ces familles de victimes. Ne jamais rien lâcher avec ce salon à Montreuil qui met justement en lumière les uns et les autres.
Je remercie beaucoup Daniel Ibanez pour l'organisation de ce salon parce que ce sont là aussi des bénévoles qui donnent leur vie. Ils sont avec très peu de moyens et je trouve que c'est trop méconnu ce salon alors que enfin voilà, ça rassemble des lanceurs d'alerte fantastiques, que ce soit Irène était là, bien sûr j'étais aussi là dans le cadre des Résistantes, le livre de Florence Méréo qui vient de sortir avec, il y avait Juliette Boudre qui a dénoncé aussi les opioïdes avec les benzodiazépines, il y avait Annie Dupéré pour les Votirox, donc c'est vraiment des endroits formidables où on peut échanger et on peut partager.
Merci Marine Martin. Je rappelle votre livre « Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire », préface d'Irène Frachon. Merci, interview qui sera largement relayée sur les réseaux sociaux.
Merci.
Pour vous et pour la cause. Merci beaucoup.
Merci.
Marine.
19h25, bon week-end à l'écoute d'Europe 1. Nous sommes avec Wendy Bouchard.
Voici l'écho de la planète, le journal de l'environnement, chaque samedi avec vous Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, on parle des E249 ou E283, les additifs alimentaires en baisse dans nos assiettes. En Australie, des chiens renifleurs pour sauver les koalas des incendies monstres. Et puis, une nouvelle forêt va naître à 30 km de Paris.
Commençons par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments, qui publie cette étude, Virginie, étude inédite et rassurante, quelque part, sur les additifs alimentaires.
Oui, vous savez, les exhausteurs de goût, les colorants ou les émulsifiants qu'on retrouve dans la liste des ingrédients des plats préparés ou de la nourriture industrielle en général, l'agence a mesuré l'évolution de leur utilisation depuis 10 ans. Alors, il y en a encore dans 78% des produits étudiés. C'est encore beaucoup, mais ça ne cesse de baisser, notamment dans ces produits que détaille la responsable de l'Observatoire de l'alimentation à l'ANSES, Céline Minard.
Il y a par exemple 81% des jus et nectars qui ne contiennent pas d'additifs. Il y a également 63% des fromages qui ne contiennent pas d'additifs. 49% de l'alimentation infantile de diversification. Et 40% des produits à base de pommes de terre. Donc c'est tout ce qui est chips et frites.
Alors en revanche, si vous fuyez les additifs, il faut se méfier des viennoiseries et des desserts surgelés qui contiennent encore au moins 10 additifs chacun. Même chose pour les carottes râpées sous vide, les glaces et les sorbets de supermarché.
Bon, on note tout ça, c'est la liste de non-courses éventuellement. Vous nous emmenez maintenant, Virginie Salmen, en Australie, à la découverte de chiens renifleurs. Ils ont joué le rôle de sauveteurs pour les koalas ces derniers jours.
Oui, vous avez peut-être vu ces images des gigantesques incendies qui ravagent le bush australien et qui ont commencé dès le mois de septembre, bien plus tôt que d'habitude. Notamment la vidéo de cette femme qui va jusqu'à la lisière des flammes pour sauver un koala blessé par le feu.
Ouais. Elle le prend avec son habit, elle le recouvre. Ce petit koala qui est brûlé.
Il y a urgence à sauver les koalas parce qu'il faudra encore des semaines, voire des mois avant que les incendies ne s'éteignent, notamment avec la vague de chaleur annoncée pour les jours qui viennent. Alors, des organisations de protection de la nature ont formé des chiens de plusieurs races, notamment des borders, à la détection des koalas. Ils se postent sous un arbre dans lequel un koala s'est réfugié ou encore ils repèrent des déjections et permettent aux sauveteurs humains qui se promènent avec eux de les attraper et puis de les mettre à l'abri. Alors, ces chiens, ils ont un odorat 10 000 fois plus développé que le nôtre. Ils ont des petits chaussons rouges pour protéger leurs pattes des éventuelles braises sur lesquelles ils pourraient marcher. Et ils arrivent à repérer plusieurs koalas chaque jour à force d'arpenter le bush.
Merci pour cette information et je vous recommande d'aller voir cette vidéo du sauvetage qui est très émouvante. Alors, beaucoup de gens n'y croyaient pas, Virginie, mais les premiers arbres d'une nouvelle forêt vont donc être plantés ce lundi.
Alors, ce projet de forêt de Pierre-Lès-Bessancourt, dans le Val d'Oise, à 30 km de Paris, a longtemps été considéré comme une utopie écologiste. C'est une forêt de 13 km², 1 million d'arbres à terme.
Mal, hein ?
La dernière fois qu'une telle forêt a été plantée, ça remonte probablement à Louis XIV. Finalement, après une dizaine d'années de batailles administratives, c'est parti. Les premiers arbres vont être mis en terre à Méry-sur-Oise, puis devraient suivre des plantations à Herblay-sur-Seine et Saint-Ouen-l'Aumône. Ça fait des années que les habitants en entendent parler, on peut dire qu'ils n'y croyaient plus, mais ce projet, lancé en 2011, va enfin voir le jour. Ça fait partie des projets du Grand Paris, cette forêt, mais il faudra encore attendre entre 30 et 50 ans avant de pouvoir s'y promener, le temps évidemment que les arbres poussent.
Bien sûr, on va terminer avec le conseil de votre copine Catherine, comme chaque semaine.
Catherine, elle essaye de réduire au maximum son empreinte sur cette planète. Alors aujourd'hui, elle nous parle d'un petit effort qu'on peut faire au quotidien, au travail, supprimer sa poubelle individuelle de bureau.
Très
vous
important.
Savez, la corbeille dans laquelle vous shootez peut-être régulièrement.
Oui.
Alors l'idée, c'est que si on doit se déplacer jusqu'à la poubelle du couloir, qui est un peu plus loin, eh bien, on jette un peu moins. Et en prime, on peut se dire qu'on lutte contre la sédentarité, on fait un peu d'exercice, c'est bon pour la santé. Oui. Voilà pour le conseil de Catherine Margne, qui, elle, eh bien, elle a réussi à supprimer sa poubelle de bureau.
Merci. L'écho de la planète revient samedi prochain avec vous, Virginie Salmen sur Europe 1.
Bonsoir.
Bonsoir.
À suivre dans l'ombre des grands chefs, ce soir, un dessert, Wendy.
Oui, une tarte pour ce week-end avec Pierre Herbulot et son chef pâtissier sur Europe 1. A tout de suite.
19h31, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et voici le rappel de l'info, Sophie Echène.
La situation n'est pas près de s'améliorer dans le sud-est de la France. Les départements du Var et des Alpes-Maritimes sont désormais placés en alerte rouge, pluie, inondation. Le trafic SNCF est suspendu dans la région, l'aéroport de Nice est fermé, l'autoroute A8 est coupée. Les autorités appellent la population à se montrer extrêmement prudent. Et puis c'est une information Europe 1, l'inquiétude grandit sur la commune du Muy, près de Roquebrune-sur-Argence. Après une opération de sauvetage, une embarcation des sapeurs-pompiers a chaviré alors que plusieurs habitants naufragés se trouvaient à son bord. Des opérations de reconnaissance sont en cours, appuyées par des hélicoptères pour retrouver tous les habitants. Enfin, la Haute-Loire, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont maintenus en vigilance orange inondation. La plus grande marche de l'histoire de France contre les violences faites aux femmes. Le collectif Nous Toutes salue une très forte mobilisation après les différentes marches qui avaient lieu partout en France aujourd'hui. Le cortège parisien a réuni quelques 49 000 personnes selon le cabinet de comptage Occurrence pour plusieurs médias, dont Europe 1.
Merci Sophie.
Et c'est parti pour l'ombre des grands chefs, Wendy.
On glisse avec vous chaque samedi dans l'univers d'un pâtissier du côté d'Arras ce soir. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir Wendy, je vous emmène dans le nord ce soir à Arras avec le chef pâtissier Patrick Herman. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on est à Arras mais on aurait pu être aussi à Lille, au Touquet, c'est ça? Vous avez plusieurs,
oui, plusieurs boutiques.
Qu'est-ce que vous allez nous présenter comme plat ce soir? Je crois que vous m'avez déjà teasé un petit peu le plat, c'est typiquement du Nord.
Du Nord, oui, c'est une tarte avec un sablé pressé spéculoos et une ganache montée chicorée avec des poires chicorées. On l'appelle la tarte addict.
Tarte addict, parce qu'on y revient à chaque fois?
À chaque fois, oui.
Bon, ben on va voir ça. Alors, par quoi on commence?
Donc, on va attaquer par le sablé pressé. On va émietter les spéculoos. Mettre au batteur, ajouter le praliné, on va mettre un peu de chocolat lait dedans pour que le sablé se tienne. On essaye de bien écraser le sablé, voilà, là ça va aller, encore un petit peu, voilà. Ce sablé, on va l'étaler à 4 mm d'épaisseur pour qu'on ait bien du croquant dans la tarte.
Donc là, un petit caramel.
On va mettre des bandes de caramel.
Sur notre caramel, on va rajouter quelques poires qu'on a fait infuser pendant 2-3 jours dans une infusion de chicorée. Donc on va les couper en petits cubes.
Elles ont l'air bien fondantes là.
Ouais. Et on va en mettre sur toute la longueur de la tarte.
Et maintenant, on va monter notre ganache montée. C'est à base de crème, de chocolat.
Chocolat blanc, hein,
blanc, ouais.
Et un peu de vanille, j'ai l'impression. Ouais.
Beaucoup de vanille. Et donc, on va le monter au batteur.
Qu'est-ce que vous rajoutez là un petit
Donc là, c'est de la chicorée liquide.
Ah oui. Est-ce qu'on peut monter une ganache à la main, chef?
Oui, oui, il n'y a pas de problème. Quand j'étais enfant, mon père, quand il me voyait passer, il m'embauchait pour monter la ganache.
Ah oui, oui, d'accord.
Là, on la monte doucement, pas trop rapidement.
Alors pourquoi faut pas monter trop vite? Parce qu'il paraît que c'est pareil pour la chantilly.
Oui, oui, parce qu'autrement, vous incorporez beaucoup d'air dans...
Ah, ça fait des bulles.
Dans la chantilly, on a quelque chose d'un peu graineux, un peu volatile. Là, on va avoir quelque chose d'assez compact qui sera agréable en bouche, quoi. On va regarder...
Ouais. Bon, elle est belle déjà là. Waouh. Elle est bonne?
Elle est prête. Donc là, on va dresser notre ganache montée.
Vous utilisez une poche à douille, ça c'est le, voilà, l'outil c'est du pâtissier.
L'outil du pâtissier, oui.
À la maison, faut vous en trouver parce que c'est indispensable pour faire un travail régulier. On pourrait le faire à la cuillère, mais ce serait moins net. Et c'est prêt.
C'est terminé, on n'a plus qu'à envoyer au magasin.
On fait avec les mains, on s'en fiche. La petite douceur de la poire. Bien sucré, le caramel. On sent bien aussi la chicorée.
Bah, c'est pas évident de faire un gâteau à la chicorée parce qu'il y a cette amertume.
Bah oui, c'est
ça. Toujours là, mais avec le spéculoos, je pense que
c'est. Le sucre du spéculoos, la douceur de la poire, ouais. Aussi, le caramel. Mm-hmm. C'est vraiment très bon. C'est super équilibré. Vous m'avez dit qu'elle s'appelait Addict.
Addict.
Oui, on comprend pourquoi. Hein.
Merci.
Merci à vous.
Et en plus, il nous nargue, Pierre Herbelot.
C'est clair. Une recette de plus à retrouver, en tout cas, sur notre site europe1.fr.
Alors, la chicorée et la poire d'un côté. 40 ans après, chers amis, en plein week-end de commémoration, on a une autre recette à partager. Elle nous vient tout droit des bronzés fonds du ski.
Mademoiselle, s'il vous plaît.
Oui, madame.
Qu'est-ce que c'est que la crêpe Gigi?
Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. C'est délicieux.
Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici. Vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Oh, mais qu'est-ce que c'est, ce type-là? On croit rêver?
C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui à la tête de con. Voilà, qu'on ne revoit plus ici, hein.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh, bah c'est encore une crêpe au sucre.
C'est culte et on y reviendra dans une semaine en Europe 1.
19h36, voici maintenant sur Europe 1 l'œil de Frédéric Dabi avec vous, Wendy Bouchard.
Oui, pour commenter, enquête sociologique et politique à l'appui, l'actualité dans toutes ses dimensions. On accueille le directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Votre œil a regardé dans le détail cette semaine, Frédéric, la situation des ruraux. On en a beaucoup parlé évidemment à l'occasion du congrès des maires de France. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est de voir la ruralité du point de vue des ruraux, avec toutes les données que vous avez récoltées justement.
Oui, et tout à fait, c'était une enquête IFOP pour l'Association des familles rurales, oui. Qui donne à voir le point de vue des principaux intéressés. Et on a un regard relativement ambivalent et assez neutre des ruraux sur leur vie. D'abord, un constat massivement partagé quand on parle de la France délaissée, de la France à deux vitesses. Pour les ruraux, c'est majoritairement la France des campagnes. Ouais. Le grand public fait le même constat. Pour l'ensemble des Français, c'est une évolution très nette. La France abandonnée, la France qui va mal, ce n'est plus la France des banlieues, comme on le disait avant, mais la France des campagnes.
Oui, ça c'est un constat massivement partagé. Cela dit, est-ce que vous avez trouvé quelques éléments positifs dans ce discours un peu triste, un peu misérabiliste qu'on entend depuis maintenant plusieurs mois?
Justement, cette enquête remet des pendules à l'heure, si je puis dire, à rebours de discours misérabilistes ou même caricaturaux, où il y aurait une France rurale, Wendy, où tout irait mal, une France des métropoles où tout irait bien, et on voit bien dans cette enquête qu'il y a des éléments positifs qui émergent massivement du discours des ruraux. D'abord, ils associent le monde rural à l'idée de qualité de vie, le calme, la tranquillité, l'absence de stress, une sorte de bonheur rural quand les Français spontanément évoquent d'abord les difficultés économiques. Et puis, ils sont majoritaires à percevoir le monde rural comme dynamique, attractif, en renouveau à 69%, quand l'ensemble des Français met plutôt en exergue le déclin. Tout ça pour dire que, je ne dis pas non plus que tout va bien, mais il n'y a peut-être pas une, mais des ruralités avec l'idée, pour la quasi-totalité des ruraux, que vivre à la campagne n'est pas une relégation, mais c'est un choix à 95%.
Oui, ça c'est important de le souligner, alors qu'Emmanuel Macron exhorte justement au bonheur, à la joie de vivre et au positivisme. Oui. Sur les conditions de vie, on peut en parler. On a quand même eu ce plan Marshall pour la ruralité que réclament les élus. Hein. Depuis un an qu'on parle de la nécessité de reconnecter avec les élus locaux, la situation... Hélas, ça n'a pas vraiment changé sur le fond du quotidien de ces ruralités un peu en marge.
Oui, tout à fait. Et l'enquête montre de manière majeure une crainte lancinante chez les ruraux, même ceux qui sont heureux de vivre à la campagne. Mmh. C'est l'idée de voir l'État se désengager des campagnes, des affaires de la ruralité. Et cette inquiétude est, je dirais, matérialisée par une sorte de révélateur qui serait le recul ou la disparition des services publics. On a une majorité de ruraux qui ont le sentiment de ne pas bénéficier de l'action des services publics, surtout dans les communes rurales les plus isolées. Et voilà, le signe du déclin, le signe que l'État nous laisse tomber, c'est le recul ou la disparition du bureau de poste, du distributeur automatique de billets. Une banque, c'est presque vu comme un service public, comme un service au public. Et tout cela fait que le pessimisme reste quand même majoritaire pour l'avenir des ruraux.
Voilà pourquoi ils veulent, ces maires ruraux, la relance d'un véritable aménagement du territoire, l'amélioration des dessertes par les transports en commun, les nouvelles maisons France Service. Il est allé sur le terrain les voir, Emmanuel Macron, quand même. Vous êtes avec nous, Frédéric, et demain, on en reparlera avec Pascal Perrineau qui nous fera un petit peu le bilan du grand débat qu'il a pu aussi animer et dont il a pu tirer les conséquences. Voilà pour cette première actualité décryptée par vous, Frédéric Dabi. On passe à votre autre choix de la semaine. Un œil cinématographique qui nous réunit également, Frédéric Dabi, parce que vous avez vu comme plus d'un demi-million de Français le J'accuse de Roman Polanski.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
Demandez, Laurent, demandez.
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle.
J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux.
Quand une société en est là,
assassin,
elle tombe en décomposition.
Ça vous donne presque envie d'y retourner, Frédéric Dabi ?
Oui, c'est un film qui m'a énormément plu. Ce que je retiens de ce film, et qui est peut-être en décalage avec la bande-annonce qu'on vient d'entendre, c'est la construction inédite de ce film, qui adopte le point de vue du lieutenant-colonel Picard, qui est joué de manière brillante par Jean Dujardin, et non celui de Zola ou de la famille de Dreyfus, comme lors de précédentes adaptations. Je pense à la très belle adaptation pour le centenaire de l'affaire qu'avait faite Yves Boisset en 1995, où c'était Jean-Claude Drouot, Thierry Lafronde, pour les plus anciens, qui jouait Émile Zola. Il y a une sorte de dépolitisation de l'affaire Dreyfus dans ce film, presque pour une enquête policière.
Alors c'est un film fort, un film historique, un film évidemment, ça n'aurait pas échappé à nos auditeurs, dans un contexte particulier. On replonge forcément dans le débat sur la nécessité de distinguer l'artiste de l'homme, débat qui avait agité aussi les réflexions sur les écrits, par exemple antisémites, de Céline. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu dans les enquêtes sociologiques ce que ça donne ? Comment cette France se divise ou pas sur ces sujets ?
Alors, la plupart du temps, les Français dissocient l'œuvre de l'artiste. Mmh. Malgré tout, il ne faut pas oublier que le film n'est pas le film que de Roman Polanski. C'est une œuvre collective et quand on voit le succès de ce film, il semble que cette dissociation opère pleinement chez les Français, s'agissant surtout, au Wendy, d'une affaire qui a été, je dirais, un révélateur du malaise national et qui est peut-être un des plus grands événements du tournant du siècle.
Mmh, ouais, elle a divisé la France, cette affaire Dreyfus. Étonnant aujourd'hui qu'elle divise aussi les réflexions. Pour vous, ça reste une œuvre forte et vous la recommandez.
Tout à fait, oui. Je recommande ça aux auditeurs d'Europe 1.
Merci Frédéric Dabi pour votre œil de la semaine. On se retrouve avec grand plaisir aux alentours de 19h30 samedi prochain sur Europe 1.
Merci.
À suivre, Wendy Bouchard dans le Grand Journal du Soir.
Quelques moments choisis de l'antenne cette semaine. Et puis un jour, une histoire, l'occasion de la fente aux enchères de Paris Match. C'est Marc Brincourt, chef du service photo au journal, qui répond à Philippe Legrand.
Il est 19h44, Wendy Bouchard. Et le Grand Journal du Soir se poursuit avec une semaine en Europe 1, les moments forts sur l'antenne.
C'était jeudi 8h20. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, répond aux questions de Sonia Mabrouk. Il dépose avec sa centrale un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre et s'adresse au gouvernement.
Sortez de l'ambiguïté. Sortez de l'ambiguïté. Quelle réforme vous voulez mettre en place ? Est-ce que c'est la réforme de justice sociale avec la mise en place d'un régime universel qui prendra en compte les aléas de carrière des solidarités ? Et dans ce cas, La CFDT le veut depuis 2010, bien avant l'arrivée du président de la République. Donc, on veut travailler sur ce sujet-là. Ou est-ce que vous voulez, comme on le pressent aujourd'hui, une réforme financière qui demandera de faire des efforts aux travailleurs avant de parler de solidarité et d'équité? Dans ce cas, la CFDT s'y opposera.
Mercredi, Fanny Agostini à la ferme, avec à la une les pouvoirs de la coquille d'œuf. Écoutez bien.
Une coquille d'œuf, il faut le savoir, ça pèse environ 6 grammes et ça contient 95% de minéraux, dont du calcium, du carbonate, du magnésium et du phosphore. Et cette structure hyper sophistiquée se forme en quelques heures à l'intérieur même de la poule par un processus de minéralisation. Et ça, nos grand-mères, elles le savaient bien, parce que nos mamies, pour prendre soin des petits-enfants, eh bien le soir, elles plaçaient un œuf dans un verre d'eau et le lendemain matin, une fois l'œuf retiré, elles donnaient le verre d'eau à boire aux enfants en guise de complément alimentaire, car l'eau s'était entre-temps chargé de minéraux.
Hier, l'enquête de l'association UFC Que Choisir, 44% des médecins généralistes refusent de devenir le médecin traitant de nouveaux patients. Réaction de Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France.
Quand vous avez des patients comme médecin traitant, vous devez pouvoir donner des rendez-vous dans des délais raisonnables, vous devez pouvoir prendre les soins non programmés, vous devez pouvoir assurer les urgences. Et puis les médecins aussi, ils connaissent leur capacité de résistance, parce que quand vous êtes soigné par un médecin qui est débordé ou qui est fatigué, vous êtes soigné par un mauvais médecin. Et puis les capacités d'accueil, c'est pas rien. Vous savez, l'exemple du pont de Mirepoix, il est pas là par hasard. Hein. On passe pas sur un pont de 19 tonnes avec un 50 tonnes. Donc quand vous prenez 4000 patients médecins traitants et que vous êtes organisé pour en recevoir à peu près 1500 ou 2000,
vous allez être mauvais, vous allez être mauvais, c'est dangereux pour le patient.
Les gens vont pas être contents. Oui, c'est dangereux pour le patient.
Et puis, Martin Lamotte, c'était jeudi, invité inattendu de la matinale à l'occasion des 40 ans des Bronzés font du ski. L'acteur du Splendide fut effacé au montage et pourtant, il a vécu comme les autres, comme ses copains, le succès d'un film culte.
Les Bronzés ont été le doudou des Français. C'est-à-dire que c'est quelque chose, même si le premier film était pas parfait, mais disons, refait assez vite, ils ont adoré ça et c'est devenu leur doudou. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever, non, c'est très bien. Ils le voient, ils le revoient sans arrêt. C'est quelque chose d'incroyable. Je ne comprends pas, eux non plus. Mais tant mieux.
Un doudou, avez-vous dit, Martin Lamotte? Eh bien, pas faux. La preuve, un extrait, c'est pour vous, les amis.
Tu dînes avec nous ce soir?
Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous.
Avec qui?
Avec la patronne de l'hôtel.
Waouh!
Ah, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté. Quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas là?
Non, pas là, non.
Tu sais qui me sidère, Jean-Claude? Ça fait 2 jours que tu es là, et t'es déjà sur un coup.
Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
C'est l'une des phrases les plus partagées en France. Merci, les Bronzés. Souvenir aussi pour vous, Fabien Lecoeuvre.
Hein. Oui, énorme souvenir, bien sûr. 1979, une année importante pour le cinéma.
Merci.
Et voilà pour le tour de l'actualité de la semaine avec Wendy Bouchard sur Europe 1. À suivre, un jour, une histoire avec Paris Match.
La photo à la une, il nous raconte Marc Brincourt. C'est un peu la mémoire photo de Paris Match à l'occasion de la grande vente aux enchères de 120 clichés de personnalités.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard. Les Tours du Monde en jet privé TMR vous présente l'entretien de Philippe Legrand.
Un jour, une histoire avec Paris Match et Philippe Legrand qui chaque semaine reçoit une personnalité. Ils se souviennent avec nous sur Europe 1. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy. Bonsoir à tous. Bonsoir Marc Brincourt.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien rédacteur en chef photo de Paris Match, expert en photographie. Vous êtes aussi le commissaire d'un certain nombre d'expositions, auteur de livres à succès. Je pense à ce Bardot, Brigitte Bardot, et puis plus récemment au président. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler sur Europe 1 de cette date, le 22 décembre 2004. Une photo forte, émouvante, Simone Veil va émouvoir le pays avec cette photographie signée Benoît Gisembert. Elle revient le 22 décembre 2004 dans ce camp de la mort où elle était, où elle a vu la mort de près avec sa famille. Elle ne repartira que sans son père, sans sa mère, sans son frère. Racontez-nous cette image et ce moment.
Tout est parti d'une idée d'Alain Genestard, qui était le directeur de Match à l'époque. On avait fait un voyage là-bas avec Olivier Royan à Auschwitz. J'avais emmené plusieurs personnes de la rédaction parce que moi-même, j'avais été avant et c'est un voyage qui m'avait bouleversé. Et puis on en parlait, puis il y avait des dates anniversaires qui arrivaient. Puis Alain Genestard a eu cette idée merveilleuse de demander à Simone Veil si elle voulait bien revenir.
Pour raconter, pour témoigner. Raconter.
Revenir, je dis bien revenir, mais parce qu'elle n'était jamais retournée. Et Simone Veil a accepté à une seule condition, c'est qu'elle pouvait venir avec ses petits-enfants. Et donc ce voyage a été organisé par Match et avec l'autre photographe, Benoît Gisimbert, que je salue, qui est malheureusement n'est plus parmi nous, qui était un immense photographe. Et il était parfait pour ce genre de sujet parce que c'est très touchy comme sujet pour un photographe. Faut être discret, faut pas trop se montrer, faut pas être omniprésent, mais faut sentir aussi la bonne image.
Ce 22 décembre 2004, Marc Brincourt, Simone Veil était en confiance sous l'œil de ce photographe.
Exactement.
Benoît Gisimbert. Elle oui. avance dans ce camp et les souvenirs remontent à la surface, la douleur aussi.
Bien sûr. Donc elle arrive dans le camp avec sa famille, l'émotion est là. D'abord, ils font le camp 1, car pour que nos auditeurs sachent qu'il y a deux camps. Il y a le camp 1, qui était une ancienne caserne de l'armée polonaise, qui est transformée maintenant en musée. C'est là où on voit ses grandes vitrines avec tous ses cheveux, ses lunettes, ses prothèses. Et ils ont commencé par ça. Puis après, ils ont été dans le camp 2, ce fameux camp 2 avec cette espèce de gare où les trains passaient sous le porche.
Et c'est ce que montre cette photo.
Ce que montre cette photo, ça va être la couverture de Match.
C'est
un plan serré. Benoît n'a pas fait poser du tout Simone Veil. Il était autour de la famille, très discret, pour l'aider des photos. Il n'y a que cette photo-là. À un moment donné, ils étaient à l'autre bout du camp et on voit les rails et cette fameuse gare par où arrivaient les trains. Et c'est le seul moment où il l'a fait poser, c'est-à-dire qu'il l'a arrêté. Il a fait cette photo merveilleuse, très forte, avec le regard de Simone qui transperce, qui perce le boîtier de Benoît et qui arrive évidemment directement dans les yeux du lecteur. Ensuite, Benoît était à 3-4 mètres et laissait les choses faire et intervenait. Et elle marchait, et tout en expliquant à ses petits-enfants comment ça se passait. Et puis à un moment donné, le Birkenau, le camp est divisé en deux parties. Il y a la partie des hommes et la partie des femmes. La partie des hommes n'existe plus, mais par contre, le baraquement des femmes était en dur, était en briques. Donc ils sont encore là, intacts. Et il y a une photo fabuleuse de Benoît où on voit Simone Veil rentrer de dos dans le camp des femmes, sous un portique. Déjà, c'est une photo forte parce que 60 ans après, elle refait le même chemin. Et elle se dirige vers un des blocs. Et là, c'est peut-être la séquence la plus forte parce qu'elle rentre dans ce baraquement et tout de suite, elle trouve le châssis en bois où elle dormait avec sa sœur et avec sa mère. Et puis ensuite, ça a été une succession de pas. Bien préciser aussi qu'il faisait froid, on est sous la neige.
Le 20 décembre.
Le 20 décembre, la neige.
2004.
Le froid. Enfin, donc on
alterne entre les silences, les souvenirs qui reviennent, Simone Veil qui témoigne, qui transmet, qui raconte à ses petits-enfants. Cette photo, Marc Brincourt, sera dans la sélection de ces images, ces 120 et quelques photographies que vous avez choisies à l'occasion, lundi 25 novembre, de cette présentation pour une vente d'un certain nombre de ces images fortes de l'histoire. Un mot sur ce rendez-vous à ne pas manquer le 25 novembre à 19h30.
Oui, quatrième rendez-vous avec la Maison Cornette de Saint-Cyr pour cette vente de photos. Ce ne sont pas des originaux, hein. Ce sont des retirages, mais des tirages 1 sur 1. C'est-à-dire que c'est pour... ça crée une rareté. Donc la thématique de cette exposition, ce sont pour fêter un peu nos 70 ans, ce sont des photos, des grandes photos qui ont fait les couvertures de Match et surtout les grandes doubles de Paris Match. On sait que pour un photographe, avoir une double dans Match, c'est un peu le Graal, c'est un peu ce format magique, un peu c'est ce qu'il y a de plus grand en termes de visibilité dans le journal quand on montre une photo. Et donc voilà. Alors après, c'est par thématique évidemment.
L'histoire, les grandes photos comme celle que vous venez de raconter. Exactement. Avec Simone Veil, mais aussi les personnalités qui ont marqué le cinéma et qui continuent encore aujourd'hui à faire.
C'est tout ce que vous pouvez voir dans Match, c'est-à-dire que c'est par thématique. Alors comme vous le dites, il y a le cinéma, il y a l'actualité avec le magazine. Il y a la culture, ces trois thématiques qui vont composer cette exposition. Il y a 129 photos au total, tirage 1 sur 1, donc je l'ai dit, format en gros 60-80, avec deux encadrements possibles et au prix de départ de 1 500 euros.
C'est une vente aux enchères, mais d'abord une exposition à voir jusqu'à ce lundi 25 novembre à la maison de vente Cornette de Saint-Cyr, avenue Hoche, à Paris. Merci Marc Brincourt.
Merci.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR. Célébrer les 70 ans de Paris Match en participant au 45e Tour du Monde en jet privé. Info sur tmrfrance.com.
Tenez Fabien Lecoeuvre, le record d'une vente aux enchères photo, vous connaissez bien ce domaine aux États-Unis.
Ouais. Aux États-Unis, c'est Marilyn Monroe qui le détient, la fameuse photo de Marilyn le 19 mai 1962 à l'anniversaire du président Kennedy.
Bien sûr.
Ça, c'est 260 000 dollars. Et en France, c'est Gainsbourg qui détient le record.
Ah oui.
Avec une photo de Melody Nelson, c'est Jane Birkin, prise par Tony Frank.
Ah, elle est torse nue avec le petit ours dans les
bras.
Avec
le petit ours, c'est
jean.
La pochette de l'album. Ouais. C'est une photo de Tony Frank. Oui. Et elle a été vendue 11 700 hors frais. Et c'est notre ami Pascal Obispo qui l'a acheté pour son feu d'enregistrement.
Ah, magnifique. Allez, un peu Gainsbourg.
Laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau.
Merci pour ce petit bonus de fin 18-20. Fabien, on vous retrouve demain 18h50 pour une chanson dans la tête. Plaisir partagé. Lionel Rousseau arrive avec Europe 1 Sport dans quelques secondes. Merci à vous, chers amis. À demain 18h.
À demain, Wendy.
À demain, Marlène.